Le Moyen-Orient s'embrase entre Israël et l'Iran. Est-ce annonciateur de la fin des temps? Cette situation de guerre mondiale, le paye-t-on? Car l'on s'est détourné du Christ? L'Église et le Vatican, les représentants du divin, sont-ils la cage aux folles? Pourquoi les prêtres sont-ils des imposteurs? Toutes les réponses à ces questions avec le journaliste Pierre Jovanovitch, auteur déjà du best-seller L'humour noir et les pouvoirs surnaturels du Christ. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique.
Nous sommes en guerre.
Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnels. Alors aujourd'hui, on va parler, voilà, géopolitique, Moyen-Orient, Israël, Iran. Et puis, on va parler de cet excellentissime livre que j'ai adoré, ce nouveau livre. Et enfin, je lis le nouveau livre de Pierre Jovanovitch, 888, l'humour noir et les pouvoirs surnaturels du Christ. Salut mon Pierre d'abord.
Bah merci Mike, merci.
Et je vais t'avouer une chose, j'ai pas de mots, voilà, j'ai vraiment adoré
c'est gentil.
Ce bouquin, vraiment. J'ai appris tellement de choses. Tiens, la genèse de ce livre.
La genèse de ce livre, c'est en fait c'est toutes les informations que je vois passer d'une part dans ma revue de presse. Et en plus, c'est 30 années, puisque je fête cette année les 30 ans d'enquête sur l'existence des
empires. 30 ans, juste, 30 ans.
Oui, le 30 ans de courrier de lecteur.
Ah bon, d'accord, je faisais 30 ans, t'étais né il y a 30 ans.
Non, c'est mon livre qui est né il y a 30 ans. C'est Les Anges Gardiens. Et donc, c'est tout ce courrier des lecteurs. Et puis, surtout que là, nous avons des témoignages absolument stupéfiant, des vidéos, qui prouvent effectivement que le Christ est capable de faire des choses absolument extraordinaires et que le Vatican est tellement embêté qu'il les cache. Hein, il fait tout pour les cacher. Voilà. Donc, il ne faut pas montrer du surnaturel à l'écran. Ça donnerait l'envie effectivement à chaque personne de s'y intéresser et éventuellement même de retrouver la foi. Donc ça, c'est et ce que me disent les lecteurs. Effectivement, ils sont totalement bouleversés. C'est-à-dire que non seulement c'est pas qu'ils retrouvent la foi, c'est-à-dire qu'ils l'avaient, mais là, ça revigore littéralement. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez ressenti vous, mais
bien sûr. Est-ce que c'est une réponse justement au livre de Michel Onfray qui lui dit Christ n'a pas existé?
Alors c'est une réponse, oui, c'est une réponse à Michel Onfray, mais je ne l'ai pas conçu comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai fini, je pense que son livre est sorti alors que j'étais à la moitié de l'écriture de celui-là, mais c'est une réponse flagrante, c'est une gifle même pour Onfray, parce que Onfray qui, d'ailleurs on voit, mais qui s'est même pas documenté, que ça l'intéresse pas, il a simplement décrété que comme Freud est c'est un petit joueur, donc lui le Christ, c'est un petit joueur aussi, mais Onfray est le plus grand de tous. Donc c'est un peu comme BHL, vous voyez. Moi j'ai lu les bouquins de Bernard-Henri Lévy, notamment sur l'assassinat de Pearl. Et quand on lit du BHL, c'est la deuxième guerre mondiale a commencé parce qu'il était là. La troisième guerre mondiale va commencer parce qu'il était là. Le conflit au Kosovo a commencé parce qu'il y était. Enfin bref, tout est centré autour de sa personne. Un peu comme Jean Daniel au Nouvel Observateur. Oui, c'est il y a comme quelque chose de commun, si j'ose dire.
Ouais, on se demande quoi, tiens.
On se demande quoi. Mais c'est tout. Oui, mais j'ai pas fait exprès. Hein. Mais j'ai vu Claude Perdriel il y a pas tellement longtemps et j'ai lu le livre de Franz-Olivier Gisberg et C'est amusant à quel point Franz-Olivier Gisberg fait l'impasse sur pas mal de détails. Mais il a soulevé ce point, effectivement, sur Jean Daniel et BHL, en effet. Donc moi, ça, c'est une réponse, effectivement, surtout à Michel Onfray.
BHL est là aussi pour la guerre Iran-Israël, visiblement.
Oui, mais alors attendez, parce que j'ai une anecdote qui va vous plaire.
Ouais.
C'est que Dominique de Villepin, donc à l'époque Premier ministre, a remis à BHL mon livre sur Enquête sur l'existence des anges gardiens. Alors, pour une raison simple, c'est parce que BHL a attrapé... Enfin, il avait les stigmates. C'est-à-dire qu'il avait les mains qui saignaient. Exactement comme les stigmatisés dont je parle dans Les Anges Gardiens. Et ça, et BHL a pété un plomb. Il savait pas comment s'en débarrasser. Toujours est-il qu'il avait les stigmates. Il saignait comme les stigmatisés dont je parle dans Enquête sur l'existence des Anges Gardiens. C'est un épisode qui l'a prodigieusement marqué. Donc Dominique de Villepin lui avait transmis le livre Enquête sur les... D'ailleurs, j'ai encore retrouvé son courrier il y a pas très longtemps. C'est pour ça que je...
Mais c'était peut-être pour d'autres raisons qu'il avait les stigmates.
C'est-à-dire qu'en fait, il fait couler le sang partout où il passe. Voilà. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Vous m'avez devancé, mais...
Et
là,
on le voit. Pardon ? Moi, je pensais que c'était plutôt la marchandise de Gérard Fauré qui lui faisait avoir les stigmates.
Oui, enfin, bon, les marchandises de Gérard Fauré. Oui, tout à fait. Non, BHL, non. BHL, lui, il est aux amphés.
Ah, d'accord.
Ah, BHL, il est aux amphétamines.
Ah, juste aux amphés. Et que ça ou...
Bah, il y a une histoire. Bah, attendez, fameuse histoire. C'est une autre anecdote, je vais vous la donner. La fameuse anecdote, c'est qu'il y a un méga délit d'initié sur un cours de bourse. Alors, je me souviens plus du nom de la compagnie. Bon, peu importe. Le principal bénéficiaire, c'était BHL. Bien entendu. Et donc, BHL a été convoqué par la police. Et donc, il s'est défendu en disant qu'il prenait des amphétamines. Ou du LSD, je sais plus. Non, je crois que c'est les deux peut-être. Et que le fait qu'ils prennent de ces drogues, ça le faisait sortir de son corps ou je sais pas quoi. Et donc il pouvait voir l'avenir. Et c'est comme ça qu'il a eu cette information comme quoi il devait acheter cette action-là juste avant qu'elle explose.
Grand Dieu. C'est dommage qu'il n'ait pas eu l'information de ne pas faire le film qu'il a tourné avec Alain Delon. Ça serait peut-être mieux pour Alain Delon, peut-être.
Maurice Jarre m'a raconté qu'il était venu le voir à Los Angeles et qu'il l'avait véritablement supplié pour qu'il fasse la musique. Et Maurice Jarre, qui franchement s'en foutait un peu. Donc il a finalement cédé à cause de ses Jérémiades. Hein, voilà. Alors je sais pas s'il l'a fait ou pas, peu importe, mais je me souviens de ce détail. Effectivement, il voulait les plus grands pour son film, pour que le film soit le plus grand. Mais ça a été le plus grand échec.
D'ailleurs, depuis ce film, je crois qu'Alain Delon n'a plus jamais tourné. C'est malheureusement.
En fait, BHL porte la poisse partout où il passe.
Ouais. C'est pas de chance.
Non, mais c'est vrai. Non mais c'est marrant parce que ça ressort comme ça. Ce garçon porte la poisse. D'ailleurs, vous savez quoi ? Il paraît qu'il se déplace même plus. J'ai vu passer une info d'un journal. Il avait donné une conférence, je sais plus trop où. Il avait, je sais pas, 3 ou 4 gardes du corps, etc. Donc il en est là, quoi.
D'ailleurs, il était allé en Ukraine. C'est peut-être pour ça qu'ils ont la poisse maintenant.
Oui, non, mais bon, moi je l'ai dit dans une interview avec Éric Morillot, que vous connaissez bien. Je le répète, BHL est une ordure parce qu'on ne peut pas défendre le Israël d'un côté et défendre les nazis ukrainiens qui ont exécuté le plus grand nombre de juifs pendant la guerre. Il y a quelque chose qui va pas. En fait, c'est parce que c'est un agent de la CIA et que tous ses intérêts, quand il défend les musulmans, c'est uniquement parce que ça arrange les intérêts de la CIA. On l'a vu en Yougoslavie. Hein, c'est uniquement pour ça qu'il l'avait fait. Sinon, il les déteste. Hein, n'oubliez pas, les Israéliens disent des Palestiniens que c'est des chiens, hein, des moins que rien. Alors, il faut les cracher dessus. Hein, voilà. Malheureusement, c'est ça.
Bah, on va parler de tout ça, cher Pierre, mais avant ça, je vais présenter le plateau qu'il y a autour de toi.
Donc, on a un beau plateau.
Un très beau plateau. D'ailleurs, Nicolas Bouvier, il a mis son beau costume, de belle cravate, journaliste indépendant. Il a écrit La loi du silence, parce qu'il est aussi
auteur. Ah, mais auteur. Je l'ai, son Silasco était...
Silasco,
s'y met dans le dernier. Celui-là, il remonte à quelques années.
Voilà, mais La loi du silence, il a écrit nombre de livres. Il a une excellente chaîne d'entretien Nicolas Bouvier officiel, je crois.
Nicolas Bouvier tout court, et j'ai lancé d'ailleurs une cagnotte Tipeee il n'y a pas longtemps pour que les auditeurs contribuent aux médias, comme c'est le cas de Géopolitique Profonde et d'autres médias que je salue. Donc voilà, merci de m'accueillir, Mac. Je suis très content d'être avec Pierre Jovanovic. Et d'ailleurs, j'ai lu son ouvrage, donc je remercie la maison d'édition pour me l'avoir envoyé.
C'est gentil.
Et très intéressant, parce qu'il y aura des sujets, moi, qui m'ont interpellé, notamment sur la pédocriminalité, entre autres, puisque c'est un sujet que
je vais traiter. Voilà. On en parlera.
Et ensuite, bien sûr, la religion, etc. Voilà.
Merci beaucoup, cher Nicolas. En face, nous avons Jérémy Marquis, président de France, et vous, Jérémy Marquis, que vous connaissez, qui est là. Bah, tiens, il y a un petit 53, qu'est-ce que ça signifie, là ?
Oui, c'est l'année de naissance de ma grand-mère.
Ah, d'accord.
Voilà.
D'accord, je pensais que c'était un chiffre symbole qu'aurait...
Non, pas du tout, non. C'est purement familial.
Bon, ça va bien.
C'est mignon, ça. Mais pourquoi vous avez fait tatouer l'année de naissance de votre grand-mère ?
Bah oui.
Mais pourquoi ?
Bah parce que j'aime beaucoup ma grand-mère.
Ah, bah voilà. D'accord, mais c'est trop mignon. C'est mignon, c'est adorable. Il est mignon tout plein.
Bah voilà. Cher Jérémy, qui est président de France et vous, et qui maintenant est sociétaire à Bistro Liberté, et de Éric Moriot, que je salue
demain.
Ici, évidemment.
Voilà, je serai sur Bistro Liberté.
Demain soir, 21h.
À 21h, ouais.
Bon,
ouais.
Ça va y aller.
Je suis toujours ravi d'être là aussi.
Ça va y aller sur Bistro ?
Ah oui, ça va y aller, ouais.
Bon, on compte sur vous pour bien représenter les jeunes.
Ah oui, toujours. Et je suis toujours content d'être là aussi.
Non, mais c'est bien, c'est toute cette nouvelle génération d'animateurs, journalistes, etc., qui sortent, mais c'est magnifique. Oui, parce que quand on voit les jeunes journalistes sur BFM, moi, des fois, je me tapais la tête contre les murs, quoi. Non, mais les journalistes sur BFM, c'est le genre de truc. Alors, votre maison est inondée, comment vous vous sentez ?
Oui.
Je suis une espèce de connard de bave dans la gueule. Comment tu veux que je me sente, connard ? J'ai un mètre d'eau chez moi.
Non, mais c'est vrai.
Je ne sais même pas où ils sont formés, ces gens.
Mais c'est du journalisme formaté, en fait. Hein. C'est donc
non, mais c'est plus du journalisme.
Non, attention,
c'est de l'animation de maternelle.
C'est ça. Et avec la carte de presse qui va avec également, c'est ce qu'on disait dans la dernière émission de Radio.
Donc, critiquez pas trop la carte de presse, quand même. Hein. C'est pas bien, il faut pas. Et à ta droite, tu as Nicolas Stocker, éditorialiste.
Donc, à ta gauche.
Non, à la droite.
Donc, à ta gauche.
Donc, à ma gauche, oui. Je préfère dire à la droite de Jérémy qu'à ma gauche, à moi. Voilà.
Parce que j'avais quelqu'un...
Comment ça va, cher Nicolas ?
C'est important parce qu'en fait, tout est question de repères. Quelqu'un dit, mais l'univers tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ben, ça, c'est vrai au pôle Nord, mais pas au pôle Sud, c'est l'inverse au pôle Sud.
Et là, je suis au pôle Sud.
Ben, tout dépend, donc tout est en fait question de repères.
Donc éditorialiste, patron d'émission à Radio Courtoisie, il a mis ses lunettes, ça veut dire qu'il est aujourd'hui sérieux.
Bah oui, puisque je fais une chronique.
Voilà. Sur quoi la chronique ?
Sur le Catochon. J'ai pensé particulièrement à notre ami Pierre Jovanovic, parce que tout le monde connaît l'amour débordant qu'a Pierre pour Saint Paul. Et Saint Paul, oui. Dans le deuxième épître des Thélonicien, eh bien, parle du Catochon. On va parler du Catochon parce que ça parle de l'Apocalypse, ça parle de l'Antéchrist. Toi, Mike, qui aime bien inviter des personnes
sur
l'Antéchrist et Macron l'Antéchrist, eh ben, tu vas être servi. Je suis sûr que tu seras très attentif cette fois-ci à ma chronique.
Merci beaucoup, cher Nicolas. On va passer au grand entretien, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde, voilà, celle du mois d'avril. Et un an, ça fait un an que cette lettre existe, et déjà plus de 1200 abonnés. Merci à vous de votre confiance. Donc vous avez, on parle de géostratégie, mondialisme, Général de Lavarde, qui pour la première fois fait un article chez nous, et sûrement pas la dernière. N'hésitez pas à vous y abonner. Le lien est en description. Dis-moi, cher Pierre, en lisant le livre, et avec l'actualité qui se passe, on peut faire qu'une analogie. Hein.
Ah ben là, est en plein dans l'actualité, c'est ça qui est dingue.
Oui, est-ce que là on est... Allez,
je mets les pieds dans le plat.
Je mets les pieds dans le plat. Est-ce que Iran-Israël, c'est le début de la fin des temps ?
On est déjà dans la fin des temps. Je veux dire, moi, je l'ai montré vraiment par hasard à nouveau avec le livre 777, hein, donc c'est le précédent, hein, dans lequel j'avais expliqué que si mon analyse était la bonne du livre de l'Apocalypse de Jean, Benoît XVI se fera virer du Vatican, de l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé un an et demi après la publication de mon livre. Et j'en avais parlé à la radio à l'époque, etc. Donc, moi, effectivement, on était très troublés. Tous mes lecteurs, effectivement, étaient tout autant. Et on peut dire que c'est l'un des signes. Alors, le deuxième signe qui vient confirmer ça, il ne vient pas de chez nous, si j'ose dire, il se passe en Israël. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je parle du rabbin Schneerson dans le livre, c'est très important. Le rabbin Schneerson, c'est lui qui a... c'est le guide spirituel, on va dire, comme ça, de Netanyahou. Mais surtout, enfin, de Netanyahou, parce qu'il l'a rencontré à plusieurs reprises, il lui a donné des conseils, et ainsi de suite. Il a fait la carrière qu'il lui avait annoncée, hein, parce qu'il avait le don de vision à distance, hein, le rabbin Schneerson. Et on a vu hier, alors je ne sais plus si c'est LCI ou BFM, peu importe, Ehud Barak, donc l'ancien patron du Mossad, l'ancien ministre de la Défense surtout. Bien donc sûr. Il est monté au Premier ministre, mais par le biais militaire, c'est très important, le biais renseignement militaire et ainsi de suite. Et il a clairement dit hier, et c'était une bombe, sa déclaration, il faut le rappeler, comme quoi aujourd'hui le cabinet de Netanyahou est entre les mains de gens qui sont effectivement apocalyptiques, c'est-à-dire qu'en fait les Juifs... Enfin, la version juive de l'Apocalypse, c'est-à-dire que le Messie, leur Messie à eux, bah, pas le nôtre, hein, leur Messie à eux va revenir. Et pour qu'il revienne, il faut raser Gaza. Grosso modo, c'est l'idée. Bah, voilà. Donc, le fait que Ehud Barak confirme tout ceci, c'était absolument extraordinaire. Et donc, du coup, le livre 888, bah, du coup, ça prend encore une dimension supplémentaire, et tout ainsi que 777. Et vous savez, il y a l'histoire de Gog et Magog, hein, dans l'Apocalypse de Jean. Hein, il y a, je ne sais plus combien, 20 ou 200 millions de soldats qui vont s'affronter dans le désert israélien. Et c'est la raison pour laquelle, c'est pour hâter l'Apocalypse. Je parle des Juifs, là. C'est pour hâter l'Apocalypse qu'ils ont bombardé volontairement le consulat iranien. C'est pour ça. Là, on n'est pas en termes de géopolitique, machin. Là, on est dans le monde purement biblique. Voilà, d'un côté l'Ancien Testament et de l'autre côté le Nouveau. Et en ce qui me concerne, avec le livre 777, j'ai montré effectivement que on avait le signe majeur, effectivement, qu'on est rentré. Les rabbins en Israël ont manifestement eux aussi eu les mêmes signaux, et c'est la raison pour laquelle ils ont encouragé Netanyahou et son cabinet à effectivement à raser Gaza, c'est-à-dire à hâter. C'est ça qu'ils veulent, hein, c'est hâter la venue du Messie. Du Messie le leur.
Mais est-ce que ça signifie que justement Israël du coup va riposter contre l'Iran?
Bah, c'est ce qu'ils veulent. Je veux dire, vous attaquez. Attendez, je ne sais pas si vous réalisez, bombarder un consulat, ce que ça veut dire. Alors là, on a tout un. En ce moment, vous savez, alors ce qui est extraordinaire, bah, je pense que vous l'avez tous vu, CNews. Alors là, CNews, d'un seul. Ils étaient, on va dire, je ne veux pas dire qu'ils étaient neutres, mais bon, c'était assez soft. Mais là, d'un seul coup, on a vu, on a vu madame Laurence Ferrari nous expliquer c'est un scandale, l'Iran est un criminel, etc. Peut-être, c'est pas des enfants de cœur, hein, l'Iran, hein, question de démocratie, on repassera, c'est sûr, surtout pour les femmes. Mais en ce qui concerne prendre la décision de bombarder un consulat, d'ailleurs une journaliste qui a interrogé l'ancien Premier ministre anglais sur la BBC lui a demandé, mais le Premier ministre disait, oui c'est un scandale l'Iran, machin, et la journaliste lui dit benoîtement, mais si notre ambassade ou notre consulat avait été bombardé, qu'auriez-vous vous fait en tant que Premier ministre? Ah ben, on aurait réagi de la même façon, hein, grosso modo. Donc vous voyez, il y a un parti pris complet de la part des médias pour Israël. Enfin, quand je dis Israël, entendons-nous bien, c'est cette clique criminelle qui s'appelle le Likoud. Voilà, tout ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Le Likoud est devenu un parti de fous dingues, de fous furieux, qui veulent hâter effectivement l'arrivée de leur Messie, et pour ça, ils font place nette. Et c'est ce que vous observez en Palestine aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, si vous n'avez pas lu l'Ancien Testament, si vous n'avez pas lu le Nouveau, bah, vous êtes un peu perdu. Et c'est le cas de tous les journalistes que vous voyez, politiques, qui vous donnent des analyses. Mais il y a cette partie-là qui manque.
C'est sûr.
Moi, c'est un exemple que je donne toujours. Jimmy Carter, qui était déjà dans cette obsession, il avait renommé son avion, le Air Force One, il avait renommé The Last Judgment, le jugement dernier. C'est dans le genre avion apocalyptique, on ne peut pas faire mieux, quoi. C'est le message est clair. Et regardez, l'ancien patron de la CIA, Pompeo, Pompeo, je veux dire, mais il est complètement pro-Israël. Ils sont en train d'envoyer des milliards. Tous les mois, ils envoient des milliards à Israël, ils vont leur filer 20 milliards, et puis ensuite, ils leur donnent toutes les bombes, et ensuite, donc, les Israéliens rasent la Palestine, et ensuite, les Américains viennent envoyer quelques rations alimentaires.
Mais
c'est monstrueux.
Mais dis-moi, toi qui as traduit un excellent livre, d'ailleurs, sur les drones, il y a eu cette attaque de drones.
C'est moi qui l'ai traduit, mais on a publié. Oui, d'un journaliste du Jerusalem Post, voilà. Franzmann, absolument. Remarquable le livre, d'ailleurs.
Est-ce que, justement, cette attaque de drones pouvait réussir, ou est-ce que c'est un essai, une sorte de galop d'essai qu'ont fait les Iraniens?
Non, c'est-à-dire que quand on est... j'ai fait pas mal de voyages... au Moyen-Orient, il y a l'histoire de ne pas perdre la face, qui d'ailleurs devient de plus en plus forte dès qu'on va, par exemple, au Japon. Au Japon, ne pas perdre la face, c'est le béaba de la société, des relations sociales. Hein, voilà. Par exemple, un présentateur de météo japonais ne va jamais vous dire « demain, il va faire beau ». Il va dire « peut-être, éventuellement, peut-être que demain, on aurait... un peu de beau temps, mais c'est pas sûr.
Voilà. C'est bien
c'est
dit.
Pour qu'ils ne perdent...
C'est pas mal, oui. Bien dit, là, en japonais. Là,
mais, voilà, mais c'est pour qu'ils ne perdent pas la face. Oui, mais c'est pour qu'ils ne perdent pas la face. Attention,
d'accord.
C'est très important de comprendre ça. Et donc, les Iraniens, qui sont en Asie, hein, quand même, en Asie mineure, mais ils ne pouvaient pas se permettre de perdre la face vis-à-vis de leur population. Donc, ils se devaient effectivement de répliquer. Alors, ils ont une réplique assez soft, mais ils ont bombardé la base aérienne dans le désert du Negev, d'où il y a tous les souterrains de l'armée de l'air israélienne. Ils ont été assez soft, on va dire ça comme ça. Ils ont été assez soft et les Français ont aidé les Israéliens pour abattre un certain nombre de... et ce qui est le plus important, c'est la Jordanie, je crois, qui les a aidés. Oui. Et ça, c'est vraiment surprenant, hein, parce que la moitié de la population de la Jordanie, elle est palestinienne. Hein.
Mais ça te surprend aussi que les Français ont...
Non, ça me surprend pas, évidemment. Attendez, je veux dire, tous les médias sont sous la main, on va dire, de Macron et de... À qui a été vendu BFM, à Sadé, un ami proche, même très proche de Macron et du secrétaire général. Donc voilà quoi, je le rappelle. Donc ils veulent absolument, ils essaient de jouer sur les deux tableaux, mais c'est pas possible de jouer deux tableaux.
S'il y a réplique des Israéliens, qu'est-ce qui peut se passer derrière? Est-ce que
L'Iran ils vont répliquer vraiment très sérieusement, et ça sera le tout pour le tout. Parce que c'est ça le truc, dès que vous êtes au Moyen-Orient, en Turquie, etc., il y a le côté le tout pour tout. On le voit en France, hein, avec les...
C'est un conflit mondial ?
On voit avec les « nique ta mère hein, », je vais te niquer ta mère, je vais te tuer tout de suite, tu vois, c'est, il n'y a pas de discussion. Hein, c'est un peu l'idée, hein. Hein, c'est un peu l'idée. Donc, effectivement, là, on est rentré dans dans ce qu'on appelle un épisode la fin d'une ère. Moi, je préfère la fin d'une ère. Hein, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est la fin d'une ère.
C'est la fin des temps. On peut dire que c'est la fin des temps.
C'est la fin d'un temps. Vous savez, la Terre a été... Vous savez, elle a changé...
Oui, c'est-à-dire le temps humain, peut-être.
C'est ça que je veux dire. Les Mayas avaient déjà cette conception, si vous voulez, du changement d'air. Hein. Les Indiens aussi. Hein. Les textes indiens, vous savez, sont beaucoup plus anciens que les textes des Juifs. Hein, les textes des Juifs, ils ont 600, 700, 800 ans. Les textes, par exemple, hein, les textes indiens, ils ont 6000, 7000 ans. 8000 ans, donc il y a un historique, et on sait que il y a toujours des changements. Vous savez, moi, c'est quelque chose que je dis toujours. Nous avons changé. Moi, je suis le dernier. Enfin, je pense que Nicolas Stocker ici présent, peut-être. Mais en tout cas, moi, je suis la dernière génération qui a fait du latin et du grec en sixième, en cinquième, quatrième.
Dufessier.
Oui, mais tu devais être dans une école privée, hein, c'est pas possible.
C'est ça, ouais, j'étais au collège privé, ouais, c'est vrai.
Bah, il faut le dire.
Non, hein, il faut le dire.
Ouais, voilà. Public, bah, non, moi c'est au lycée Michelet, donc c'est public, hein, on est vraiment public. Et
j'étais en public et il y avait des...
Et en public, j'en ai fait aussi du lycée.
Non, mais nous, c'est obligatoire.
Ah oui, non, c'est pas obligatoire.
Non, soyons clairs, nous, c'était latin, grec, boum, d'office.
Non, mais le latin est très important.
C'est extrêmement important.
Ça, c'est terminé.
On en parle après.
Et juste, je termine là-dessus. Nous sommes passés de 6000 ans de l'ère de l'écrit à l'ère de l'image. Voilà. C'est-à-dire que à partir de... Vous avez toutes les nouvelles générations. Moi, je dirais que la première génération, c'est quand le bébé pleure. Je sais, je l'ai fait. Je pense que tu l'as fait aussi. Hein, c'est quand il pleure et que tu le mets devant la télé avec un dessin animé. Là, du coup, il pleure plus. Là, tu te dis, waouh, j'ai trouvé la solution. Voilà. Et c'est à partir de là... que la nouvelle ère, l'ère de l'image, est entrée en jeu. Voilà. C'est la coupure, elle est là. C'est grosso modo 75-76. Les Américains, c'est plus tôt, parce qu'eux, ils ont un équipement de télévision déjà phénoménal dans les années 50-60.
Voilà. Et puis après, t'as le magnétoscope, donc la cassette, la fameuse cassette que tu mets et que les enfants veulent voir en boucle.
Et voilà, le roi lion, je l'ai regardé 60 fois.
Ben, pour en revenir, tiens, à ton livre 888, L'humour noir, les pouvoirs surnaturels du Christ, t'as quand même la dent dure vis-à-vis de l'Église. D'ailleurs, Vatican II, pour toi, c'est la cage aux folles. Voilà, faut le dire, c'est la cage aux folles.
Enfin, c'est pas Vatican II, c'est le Vatican tout court.
Non, mais le Vatican, oui. Bon, le Vatican II, c'est, bon, on va dire, ce qu'il en résulte, quoi.
Ouais, enfin, on est en raccord avec ce qui se passait à l'Élysée, hein. C'est pas un problème, hein. Je veux dire, oui. C'est-à-dire que, effectivement, mais là, je me repose, comme vous, là, sur les travaux de Frédéric Martel, qui a fait, à mon sens, le plus grand travail depuis Roger Pierrefitte. Roger Pierrefitte avait publié dans les années 60 Les Clés de Saint-Pierre. Roger Pierrefitte était le premier grand écrivain français à défendre la communauté homosexuelle. C'est un homme brillant, brillantissime, avec un historien provocateur, certes. Mais il a été le premier à montrer, effectivement, que le Vatican était parti sur des bases nouvelles, on va dire ça comme ça. Et Frédéric Martel, donc, a finalisé ça grâce à son livre Sodoma, avec 1500 interviews de cardinaux, de prêtres dans 10 pays, et ce qui ressort effectivement, c'est la promotion canapé, hein. Voilà, je dis pas que tous les prêtres, hein, mais 80, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs un autre cardinal américain, 80% des prêtres aujourd'hui qui sont homosexuels, point barre.
Donc, moi, j'ai 80%.
Oui, donc moi, je me fous de savoir ceux qui sont homo, machin, ou travelo, on s'en fout, mais qui viennent pas nous donner des leçons sur notre sexualité, qui viennent pas nous dire qu'on peut pas communier parce qu'on a divorcé, parce qu'ils sont très très mal placés. Et il y a un scandale, c'était hier, je crois, c'était en Pologne, il y avait un prêtre qui a été condamné pour avoir organisé une partouze géante dans l'église même, dans, je sais plus comment s'appelle cette église, mais ça, en Pologne, ça a été un scandale colossal. Donc, et tout est à l'avenant. Au Vatican, il y a eu des scandales, il y a eu une descente de police, les mecs, ils étaient en train de penser que quelqu'un était en train de mourir avec des cris d'agonie. Et en fait, ils ont défoncé la porte et ils ont trouvé 30 personnes dans une partouze géante, dont le secrétaire particulier du pape. Bon, tout est comme ça.
Alors, ce livre, c'est évidemment sur les pouvoirs du Christ, mais...
Donc là, attention, ce livre n'est pas sur...
Mais il y a aussi... Alors,
c'est sur la destruction interne de l'Église.
Mais il y a aussi une chose... Non, pas que.
Pas que.
Il y a aussi une forme... Là, tu vas à contre-courant, une forme aussi de réhabilitation de Judas.
Bah oui, forcément. C'était une obligation même.
Pourquoi ?
Pour une raison très simple. Bon, je suis pas le seul à le dire. Sans Judas, il y a pas de christianisme. Je le rappelle, hein, quand même, à la base. Hein. Le Christ avait annoncé à tout le monde des semaines avant qu'il allait mourir. Je vais rester très peu de temps avec vous, en votre compagnie. Il l'a dit maintes fois. C'est sûr que tous les autres, Pierre, Jean, etc., personne ne l'aurait trahi. Il fallait que quelqu'un le fasse. Et c'est pas moi qui fais la réhabilitation. La réhabilitation s'est faite toute seule grâce au manuscrit qu'on a retrouvé, qui s'appelle l'Évangile de Judas.
Oui, mais cette réhabilitation, elle est peu connue. malgré tout.
Là, bah, ça n'arrange pas. L'Église. C'est l'Église catholique. Dès qu'il y a des faits qui vont contre ses intérêts, on va dire, donc il masque l'information. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le Vatican sait depuis 1913 que le texte de la Genèse, Adam et Ève et la pomme et le serpent et tout ça, en fait, c'est un texte sumérien mal traduit et c'est un texte érotique, voilà, sumérien, qui simplement enseignait aux gens de ne pas coucher avec leur fille. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et à la fin, l'histoire se termine bien et la déesse, c'est une déesse, elle sauve l'humanité. Alors que dans le texte juif, l'humanité est condamnée. On est tous condamnés, vous vous rendez compte, mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est une habitude, vous savez, n'oubliez pas, Alain Minc détient, n'oubliez pas, je suis aux journées économiques, Alain Minc détient le record absolu de condamnation pour plagiat. Jacques Attali en tient également une couche. Ce que je ne suis pas du tout surpris, si vous voulez, que les textes, un certain nombre de textes bibliques aient été modifiés juste pour plaire je parle de l'Ancien Testament, qui étaient modifiés pour plaire aux divers rois et aux divers intérêts.
Ma dernière question, et après on va passer au grand débat avec nos amis. C'est cette semaine plutôt les 5 ans de l'incendie de Notre-Dame. Qu'est-ce que tu en penses, justement ?
Ah, mais je pense que c'est... Attendez. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, mais c'est... Il y a encore... il y a 2 jours... Alors, Nicolas, peut-être que pourra nous éclairer, mais je me souviens plus du nom de l'église qui a brûlé encore. En fait, il y a 2 églises qui ont brûlé sur les 3 derniers jours. Ces histoires d'églises qui brûlent toutes les unes après les autres, c'est pas un hasard. Notre-Dame de Paris ne peut pas être un hasard. Et si vous regardez toutes les églises qui ont brûlé, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que le feu est mis en haut pour que la toiture prenne feu. Donc, il y a une logique dans tout ça.
Notre-Dame, c'est une prophétie ?
Pardon ?
C'est une prophétie, Notre-Dame ? C'est annonciateur de quelque chose ?
Ah ben, c'est annonciateur, effectivement, de quelque chose de terrible, mais... effectivement, bien sûr, évidemment.
Bah d'ailleurs,
c'est la destruction de l'Église. Attendez, si vous le prenez à la source, qu'est-ce que c'est, sinon ? C'est sinon la destruction de l'Église.
Bien sûr.
C'est au sens propre du terme, je veux dire, on l'a vu, le monde entier a vu Notre-Dame brûler. C'est une cathédrale, c'est la destruction de l'Église.
Je vais couper l'herbe sous le pied de notre ami Nicolas Stoker, parce qu'il dit toujours une chose que je vais répéter, c'est lorsque Édouard Philippe rit devant Notre-Dame et qu'il a le visage qu'il a aujourd'hui. Donc c'est annonciateur de quelque chose aussi. Ça montre qu'il y a une forme de, malédiction derrière.
Vous savez, c'est un peu comme le jeune là, qui a essayé de poignarder c'est un cardinal de l'église orthodoxe en Australie. C'était très intéressant parce qu'il n'a pas réussi effectivement à le tuer. Mais c'est ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été filmé, que c'est c'est dans le monde entier. Et ce que je montre dans le livre, parce que c'est les miracles. Les actions surnaturelles que fait le Christ pour montrer qu'il est là. Pour montrer non seulement qu'il est là, mais qu'il voit tout. Nuance. Vous comprenez ?
Bien sûr.
C'est très très important. Il dit, je suis là, je vois tout, j'enregistre. Voilà. Faites ce que vous voulez, vous avez le libre arbitre, mais moi je vois tout.
Merci beaucoup.
C'est très important.
Non mais... Bien sûr.
Non, mais justement, parce que l'un des plus grands miracles, en mon sens, c'est effectivement celui qui a été filmé à Lourdes, hein, avec l'hostie qui se met à léviter. Alors, j'ai vu des commentaires de tous les blaireaux. Oui, c'est l'électromagnétisme. Oui, connard, bien sûr, il y a du métal dans les hosties, c'est connu. Hein, tout le monde va communier, justement, pour avoir un petit peu de métal ou d'argent, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est du n'importe quoi, ça a été filmé. Mais les plus grands miracles, même le pape actuel a essayé de les cacher, à Buenos Aires. C'est ça qu'il faut voir. Ces gens, l'Église actuelle est totalement pourrie jusqu'au pape. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Moi, je serais le pape, pardonnez-moi, mais je suis déjà le pape. Soi-disant de la fausse information d'après le journal Le Monde. La première chose que je ferais, c'est effectivement de convoquer la presse mondiale et de montrer tous ces miracles, justement. de montrer que le Christ est là.
Et pourquoi il ne le montre pas? Qu'est-ce qui fait qu'il s'en détourne, qu'il les cache?
Ben justement, vous venez de le dire, c'est ce que j'explique également, parce que Lustiger, le cardinal Lustiger était là à ce moment-là, hein, et ils ont tous décidé de ne pas en parler à Lourdes, c'est quand même absolument extraordinaire. Ces gens sont des traîtres. Les prêtres actuels sont des traîtres pour 80% de ça leur donne, vous savez, pourquoi ils sont devenus prêtres? Alors, deux choses. Un, pour se donner un vernis social. C'est un peu comme les libraires, certains libraires qui, vous savez, libraires de gauche, femmes divorcées, fortune, elle sait pas quoi faire, tiens, je vais ouvrir une librairie. Donc, voilà, ça lui donne son petit vernis social, professionnel, etc. Mais ce que montre Frédéric Martel, et je termine là-dessus, c'est que dans les années 50-60, être homosexuel, c'était extraordinairement mal vu. Et le seul endroit où c'était accepté, ou j'allais dire bien vu, forcément, c'était de devenir prêtre. D'où les méga scandales de détournement d'enfants, de pédocriminalité, etc., qui empoisonnent l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et ça a commencé, effectivement, dans les années 50-60. D'ailleurs, l'histoire du père Porter est absolument éloquente, où on prend un type qui a violé 20 gamins, tiens, toi, t'es en Californie, bah tiens, on va te mettre dans l'Utah. Puis dans l'Utah, il recommence, et puis on va le mettre dans l'Oregon, et puis pendant 20 ans. Le Vatican l'a déménagé au lieu de le défroquer, littéralement, de le virer. Non, parce qu'ils sont tous... voilà, c'est ça le scandale. Mais je rappelle aux spectateurs, le livre n'est pas là-dessus, au contraire, c'est
non,
sûr.
Non, non, c'est vraiment, les miracles du Christ.
Oui, mais les miracles actuels.
Voilà.
C'est ça que je veux dire, les miracles actuels. Et justement, je montre ce qu'il fait avec les cartels, les Mexicains et ainsi de suite, enfin en Colombie. C'est incroyable ce qui se passe.
Bah, on va en parler tous ensemble, cher Pierre. Mais avant ça, les petites annonces.
Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.
Merci à vous d'être si nombreux, 6200 personnes.
Bénédiction
en
sur
même
vous.
Temps.
Bénédiction.
Voilà. Montrez la bénédiction.
Bénédiction sur vous.
Une belle bénédiction.
Voilà. La caméra est là.
N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Les 1 an, ce sont les 1 an. Continuez à vous y abonner. On souhaite la bienvenue au nouvel auteur général de la Varde, que vous aimez tous. Qui?
Mais qui
ben il est là, il est là, qui?
C'est qui?
Vous cliquez sur le lien en description et n'oubliez pas de nous soutenir aussi sur le Tipeee Stream. Voilà, c'est entouré. Cette émission, c'est la vôtre. Vous cliquez sur le lien et vous nous soutenez. On continue pour vous. Donc, le grand débat avec mes amis ici présents. Nicolas Bouvet, t'as lu le livre d'ailleurs?
Oui, j'ai lu le livre.
T'as lu ce livre?
Absolument.
Et bien, t'as pas mal de choses à dire.
J'ai quelques notes, alors je vais essayer de pas être trop long, mais je voudrais revenir sur Notre-Dame, parce que moi, quand je suis arrivé à Paris hier, justement, j'aurais profité pour me recueillir à Notre-Dame. Et c'est bien d'avoir rappelé quand Édouard Philippe et Macron rigolent devant l'arrivée de Notre-Dame. Ça a été la première chose. Et dans le clip de campagne des présidentielles de 2022, il faut rappeler que dans le bureau d'Emmanuel Macron, il y a un tableau où Notre-Dame est en train de brûler aussi. Donc ça, c'est intéressant.
Ah ben... Justement, je fais une parenthèse.
Voilà.
Non mais, attends.
On a perdu le Réal.
Le livre de Roselyne Bachelot... qui était ministre, inexistante, mais l'une des plus nulles ministres de la culture qu'on ait jamais eue, je pense,
avec
de la cinquième.
La reine
attends,
du
Sophie, elle vient de commencer. Mais
voilà.
J'ai lu son livre. Et Roselyne Bachelot raconte comment Brigitte Macron est arrivée. Et pour la reconstruction, oui, justement, de Notre-Dame, en fait, ils voulaient remplacer, il fallait faire en forme de phallus discret.
Phallus doré.
Mais
il y avait de bien belles boules, hein, quand même.
Voilà. Donc, on voit bien la volonté qui se détache de tout ça. On voit bien. Ces gens sont lucifériens. C'est pas possible autrement. Je veux dire, ça colle avec ce que vous avez dit tout à l'heure.
Continue, cher Nicolas.
Non, mais il n'y a pas de problème. Au contraire, parce que dans le livre, au-delà des miracles, alors j'ai bien aimé les fameuses analyses scientifiques, notamment sur Jésus qui marche sur l'eau, etc., le fait de vouloir expliquer de manière rationnelle et totalement scientifique des choses qui, malheureusement, entre guillemets...
Non, mais enfin, par les Israéliens, il faut
préciser. Ah oui, bien sûr.
Parce que c'est les Israéliens qui vous expliquent Jésus, que, en fait, c'était un brise-glace, qu'il est, il était en patin à glace, hein, qu'il n'a jamais marché sur l'eau, contrairement à la couverture du livre. Et ensuite, le même chercheur vous explique qu'effectivement, que Moïse, alors lui, pas de problème, il a séparé la mer en deux. Alors,
mais il faisait froid aussi, sa mer morte, je pense.
Oui, non, mais c'est tout à fait incroyable. Donc, on voit bien le parti pris.
Hein,
ouais, voilà, non, ils se sont jamais... Écoutez, Israël ne s'est jamais remis de la mort du rabbin Schneerson. Voilà.
Qui était-il exactement?
C'était un peu une sorte de Padre Pio, on va dire, qui était un brave homme, hein, la question n'est pas là. C'est comme toutes les religions fabriquent des gens mystiques qui ont des pouvoirs un peu étendus. Voilà. Et ces pouvoirs sont tellement étendus que du coup, dans la communauté juive, Lubavitch, parce que c'est un Lubavitch, tout le monde est venu effectivement, et plus le temps passait, et plus il est devenu, et donc les gens étaient persuadés que c'était le Messie. Et à sa mort en 93 ou 94, je ne me souviens plus, tout New York et tout Israël étaient persuadés qu'au troisième jour, il allait faire comme le Christ et qu'il allait sortir de son cercueil. Bon, déjà, il fallait mettre une perceuse, quoi, déjà à la base, mais ils étaient persuadés qu'il allait sortir. Et ça ne s'est pas passé. Voilà, donc ils ont été extrêmement déçus. Mais si vous regardez bien la série... du sang, de l'argent et du sang là, de Canal, vous savez, sur les escrocs, là, TVA, le rabbin Schneerson est omniprésent. Il est tout le temps là. Et même aujourd'hui, dans la banlieue parisienne, vous avez des affiches. Là où il y a des communautés juives, il y a encore des affiches de Schneerson, hein, que le Messie va revenir. C'est un signal qui a été envoyé à la communauté juive française. C'est très important de comprendre ça. Et je compare justement l'enterrement de Schneerson à celui de Pablo Escobar, par exemple, ou au Padre Pio, et à celui de Pierre, par exemple, où il y avait quasiment personne. Mais comment des gens qui sont morts communiquent avec nous par des prières exaucées, et c'est comme ça qu'ils deviennent ultra connus dans le monde entier. Voilà.
D'ailleurs, vous faites entre guillemets l'opposé avec Paul Vermus en début de livre, notamment sur son enterrement en 2007. Assez intéressant, comme quoi quelqu'un qui est très populaire, qui avait interviewé pas mal de gens, bah, à son enterrement, il n'y avait quasiment personne, presque dans le dénuement le plus total. Donc ça m'avait intéressé.
Il n'était pas dénué, mais il y avait peut-être, je sais pas, 50 ou 40 personnes. Oui, voilà, on était là, mais pas grand monde. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 15 000 personnes. Quoi. C'était la star. La star des médias, hein, Paul Vermus.
Mais après, pour finir, voilà, moi, la partie qui m'a le plus, on va dire, sensibilisé de par la protection de l'enfant, c'est sur la pédocriminalité. Et j'ai retenu notamment des statistiques d'Andrew Greeley que vous mettez dans le
livre. Andrew Greeley, oui, c'est un archevêque américain.
Qui a dit que sur 2500 prêtres américains sur 43 000, il y avait environ 2500 prêtres qui avaient violé, battu, abusé de plus de 100 000 enfants depuis 1982.
Alors, il est devenu même cardinal, hein.
Voilà, et comme jeudi soir, je fais une émission spéciale sur la protection de l'enfance et je vais recevoir quelqu'un comme Arnaud Gallet, qui a été lui-même dans son enfance violé, et par notamment le père Johannes Rivoire, qui a fait l'actualité récemment parce qu'il est mort. Et c'était un prêtre missionnaire qui avait été accusé de viol, notamment sur des enfants inuits dans le Grand Nord. Donc,
ah, mais il y a un scandale aussi en Thaïlande, hein ?
Mais il y en a partout.
Les missionnaires, si j'ose dire, les missionnaires... En plus, ils sont à la tête d'une fortune absolument phénoménale, hein. Ils ont une église à côté de la rue du Bac, à côté de l'église de la Madame Miraculeuse. C'est un des ordres les plus riches en France. Et alors, oui, nous, on va partir à l'étranger, on va ouvrir des orphelinats. Oui, t'as raison, on te voit venir. On a compris pourquoi tu ouvres des orphelinats, enfoiré. Bon, passons. Excusez-moi.
C'est bon. C'est déjà pas mal.
Cher,
oui. Moi, je vais peut-être revenir plus sur l'aspect Iran géopolitique.
Ah oui.
Parce que, en effet, moi, j'ai une lecture plutôt géopolitique de ce qui s'est passé entre Iran et Israël. Vous disiez tout à l'heure que l'Iran, enfin, en tout cas, que l'attaque était biblique, mais.
Israélienne.
L'attaque israélienne était biblique. Je pense qu'il y a aussi des intérêts politique derrière.
Et, forcément.
Et notamment venu des Américains. Il y a évidemment un intérêt. Israël représente une base stratégique avancée de l'Occident au Moyen-Orient. C'est pareil pour la France. La France a en effet abattu des drones iraniens, mais parce que la France a des bases militaires en Jordanie. On a des intérêts.
Oui, mais justement, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Zelensky, d'un seul coup, quand il a vu que les Français ont abattu les avions, que pourquoi vous abattez pas les drones? Alors ça, c'était extraordinaire, parce que d'un seul coup, c'est comme les rideaux qui s'ouvrent.
On parle plus de lui, alors. Ouais.
Mais parce qu'on n'a pas aussi de base militaire là-bas. Je peux comprendre que s'il y a des drones qui passent au-dessus de nos bases militaires, on les intercepte. Ça d'un point de vue militaire et stratégique, c'est assez évident. Après, sur l'Iran, qui est obligé de riposter par rapport à sa population, j'ai plutôt l'impression que le régime iranien ne représente pas forcément la population iranienne et que la population iranienne ne soutient pas forcément ce régime-là.
Enfin, détrompez-vous. Je vous assure, détrompez-vous. N'avalez pas toute la propagande de la CIA. Moi, j'ai vu la propagande de la CIA à Belgrade et dans le Kosovo.
Non, mais en fait, régime des Mollahs n'est pas spécialement...
Ah non, mais je suis d'accord avec vous.
N'est pas spécialement un exemple. Et puis,
mais c'est un régime de théocratie. C'est une théocratie. Donc,
c'est un régime islamiste. J'ai plus l'impression qu'il est en train de détruire la civilisation perse, qui était autrefois quand même une grande civilisation, qui a fait de grandes choses et qui est aujourd'hui écrasée par ce régime religieux, qu'il l'a fait briller, quoi. Régime soit particulièrement...
Jérémy a parlé d'Israël Occident.
Oui.
Ça c'est une question... Je remarque qu'à droite, on dit qu'Israël, c'est l'Occident. Est-ce que toi, tu penses que Israël est une... Et c'est l'Occident. Est-ce que c'est une civilisation occidentale, Israël?
Oui, elle est devenue, bien sûr.
Évidemment. Par l'histoire et par le fait que elle représente en tout cas l'Occident dans la région et donc les États-Unis. Il y a aussi aux États-Unis l'intérêt évangélique, évidemment, avec Israël.
Le Bible Belt, il est très puissant.
Voilà, il y a un aspect évidemment religieux dans le soutien américain à Israël, mais il y a aussi un soutien géopolitique.
Financier.
Les États-Unis voient évidemment le Moyen-Orient comme une zone du monde extrêmement importante. Et Israël représente l'intérêt pour les Américains de rester dans la région.
Non, mais attends, c'est Ehud Barak qui a parlé hier que les biblistes sont en train de détruire Israël, en fait, de l'intérieur. Ça confirme le livre. Le fait de voir Ehud Barak balancer le truc comme ça. Et en fait, il y en a un autre, je crois que c'est un autre Premier ministre qui est venu effectivement ce matin, je crois, a confirmé que les messianistes, comme ils les appellent, en fait, veulent effectivement accélérer le retour du Messie. Donc là, la géopolitique...
Oui, mais alors, sur ça, deux points. Alors,
vous voyez ce que je veux dire?
Sur la dernière chose, par rapport à...
C'est un rôle, mais ça l'est
oui,
plus.
Oui, mais alors, par rapport à l'Iran, quand même, je reviens sur la géopolitique, l'Iran est aujourd'hui une puissance déstabilisatrice des intérêts occidentaux au Moyen-Orient. Donc on peut comprendre aussi...
Oui, surtout, ils en veulent Israël.
Oui, ils en veulent Israël, mais il y a quand même un financement de la part de l'Iran de certains groupes terroristes, certains groupes islamistes.
Le Hamas, n'oubliez pas, c'est Israël qui les a payés pendant des années.
D'accord, hein. mais
vous soutenez le Hamas? Vous soutenez le Hamas?
Non,
je suis sûr que vous
soutenez le Hamas. Non, je ne soutiens pas le Hamas. Je suis profondément opposé au Hamas et à toutes les organisations islamistes, et c'est pour ça que l'Iran, qui a un lien avec ces organisations, je pense représente en effet un danger, pas seulement pour Israël, mais également même pour les pays arabes qui sont assez hostiles à l'Iran. Je veux dire, l'Arabie Saoudite, vous avez parlé de la Jordanie, qui ne voit pas forcément l'Iran.
Les Saoudiens, vous n'oubliez pas, ils ont un concurrent pour leur pétrole, c'est pas tant qu'ils sont.
Je suis pas sûr qu'ils soient ravis. Enfin, le financement, en tout cas, de ces groupes terroristes dans la région ne ravit pas beaucoup d'autres pays, mis à part.
Oui, non, mais peu importe. Vous avez vu tout ce que ça crée en France?
Mais bien sûr, mais il y a une répercussion.
Regardez ce qui se passe à cause de la réunion de Mélenchon à Lille.
Mais c'est
complètement dingue. On a l'impression que il va battre tous les records d'audience. Là il y aura au moins 30 000 personnes, 40 000 personnes.
Sur l'ingérence en Europe,
c'est incroyable.
Moi je trouve ça inquiétant qu'en Europe il y ait des ingérences, notamment du Hamas et des frères musulmans sur le continent européen, et qu'il y ait des partis politiques.
L'ingérence d'Israël, vous la voyez pas?
Mais si, non, mais je dis pas ça. Mais c'est pas parce qu'il y a une ingérence d'un côté.
Excusez-moi, mais l'ingérence des frères musulmans parce qu'ils ont une mosquée. Et entre Israël, qui possède quand même une grande partie des médias, je pense que c'est un peu déséquilibré.
Les frères musulmans ont quand même tapis rouge au Parlement européen, financent des affiches de publicité où on voit des gamines de 5 ans voilées promues par l'Union européenne. Les frères musulmans ont quand même un
malheureusement
impact.
Malheureusement pour nous, si on a des députés qui sont suffisamment corrompus pour accepter ça, c'est notre problème.
C'est la responsabilité de nos politiques.
C'est nous qui sommes corrompus.
Mais le problème, c'est qu'on a en effet des partis politiques aujourd'hui en France qui se font les représentants officiels de cette mouvance qui est de l'islam politique et de l'islamisme, in fine. Donc ça, je pense que c'est un problème. Sur le dernier point, sur la fin du monde...
Ça nous dépasse.
Je pense qu'aujourd'hui,
Gog et Magog, je peux vous assurer que ça passionne beaucoup de monde. Quand ils ont bombardé le consulat, qu'ils ont pensé. Ça vous a échappé.
Mais c'est pas que ça m'a échappé, c'est que moi je suis plus optimiste. Je pense pas que ce soit la fin du monde.
Mais j'ai pas dit que c'était la fin du monde. J'ai dit que c'était la fin d'une ère.
La fin des temps.
D'une ère.
Alors là, je vais vous rejoindre. L'Occident vit une crise actuellement qui fait poindre en effet peut-être la fin de l'ère occidentale qui règne, etc.
Mais vous avez vu ce qu'il y a à l'Élysée aujourd'hui? Mais c'est la fin d'une ère, même pour nous, pour la France.
Vous avez
vu notre ministre des Affaires étrangères, il ne parle
pas
français.
Je sais bien.
Mais c'est la fin d'une ère, forcément.
Bien sûr que c'est la fin d'une ère.
Pour la France, là, techniquement, on y est.
C'est la déchéance de nos politiques.
C'est la déchéance totale.
Bien sûr, on a aujourd'hui, en effet, au gouvernement, des gens qui sont incompétents, qui n'ont aucune expertise, qui n'ont aucune analyse géopolitique.
C'est la promotion canapé, il faut le dire.
Oui, voilà, le ministre des Affaires étrangères n'arrive même pas à aligner 3 mots alors qu'il est censé représenter la France à l'international. Bon, voilà.
Il convoque l'ambassadeur d'Iran alors qu'il n'y a pas d'ambassadeur. Le dernier était parti en 2022.
Voilà, donc non, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Ça, c'est évident. Donc, on vit aujourd'hui en effet une crise en Occident et dans l'ensemble des pays occidentaux où on sent qu'il y a un effondrement généralisé à la fois du niveau des politiques, mais aussi de l'effondrement des élites culturelles. Je veux dire, que ce soit dans le cinéma,
confirmez que c'est la fin d'une ère.
C'est la fin d'une ère, mais je pense qu'on peut renaître. Je pense pas que ce soit mais je pense que l'Occident va toucher le fond. Je pense qu'on va se manger un mur extrêmement puissant qui va faire qu'on va être, à mon avis, on va passer par certainement des années, peut-être 4, 5 ans, extrêmement difficiles, mais qu'à l'issue de ces années difficiles et de ce mur qu'on va se manger, va peut-être pouvoir émerger un Occident mieux, on va dire. Parce que je ne pense pas que ce soit la fin de la civilisation occidentale. La civilisation occidentale, c'est quand même quelque chose...
Non, mais personne n'a jamais dit ça. Hein.
Voilà, je ne pense pas qu'on va...
Personne n'a jamais
Surtout
dit ça.
Surtout que l'Occident a quand même traversé
des
crises.
En revanche, là, il y a un danger qui est en train de... En tant que journaliste informatique, là, je le vois. C'est l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle à toutes les sauces. Et c'est absolument effrayant.
Oui, après, il y a du bon et du mauvais dans les intelligences artificielles.
Non, on est tout à fait d'accord. Mais le problème, si vous voulez, c'est que ça détruit des emplois encore plus vite que je ne l'avais pensé, que je l'ai vu. Et ça, parfois, ça donne des effets vraiment...
Oui, mais alors, j'ai un...
Alors,
intelligences artificielles et sur le travail, si les intelligences artificielles remplacent des travaux qui sont pas des métiers de passion, mais plutôt des métiers où, en fait, les gens font ça purement de façon alimentaire, je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça permettra justement aux gens de se réorienter dans quelque chose qu'ils aiment profondément, et dans un métier qu'ils font par passion. Parce que personne n'est passionné d'être caissière, femme de ménage, c'est pas des métiers de passion, et je pense que l'homme a quand même vocation à faire des choses...
Je veux dire, vous aurez toujours besoin de... Vous savez, vous avez quand même une partie de la population qui n'a malheureusement pour elle qui n'a pas voulu ou pas pu faire des études,
bien sûr.
Mais après,
tout le monde peut s'épanouir dans un domaine.
Je peux intervenir 2 petites secondes parce que.
Vas-y, interviens.
Avant de travailler sur YouTube, je travaille dans le tourisme et j'ai vu l'ubérisation et même l'utilisation de plus en plus fréquente des tablettes tactiles dans tous les musées. Et c'est durant la période de Covid, justement, que dans le musée où je travaillais, on a enlevé tout ça pour retrouver le contact social avec les gens. Et en refaisant venir ensuite les tablettes, on a reperdu le gain qu'on avait gagné durant le Covid. Donc paradoxalement, on était masqués, on était isolés. Et c'est en coupant ce lien social que les gens ont aspiré à revenir au lien social. Donc le tourisme, c'est un domaine qui a été très marginalisé durant le Covid, comme le milieu de la culture. Et je pense que tous les chômeurs aujourd'hui qui sont présents dans le pays préféreraient avoir un travail plutôt que d'être remplacés par des robots. Je pense aux caisses automatiques des supermarchés.
Oui, mais ils préféraient certainement faire un travail où ils sont épanouis dedans que d'être caissier.
C'est secondaire. Franchement, c'est secondaire. Vous savez, il y a un danger qui est vraiment encore plus grand, c'est les 35 trilliards de dettes des États-Unis.
Oui, non, ça, oui, voilà. oui.
Et ça, attention, c'est devant nous.
Oui, mais quel est le danger, justement, quelle est la conséquence de ce danger ?
La conséquence de danger, c'est qu'effectivement, que ce qui s'est passé à Chypre en 2012, de mémoire, hein, se passe dans toute l'Europe. Voilà.
Mais seule une guerre pourra régler le problème de la dette.
La guerre ne règle pas toujours tout le problème de dette, mais c'est le déclencheur. J'ai toujours dit, vous allez voir, que toute utilisation de fausses monnaies, Mike est témoin, toute utilisation de fausses monnaies entraîne des guerres. Parce que c'est une façon de masquer. Et derrière la fausse monnaie, derrière la guerre, il y a la dictature. C'est ce qui a amené Bonaparte. Bonaparte au pouvoir, ne l'oubliez jamais.
Oui, mais c'est ce qu'on voit avec l'Union européenne qui est en train de se.
Exactement.
Merci beaucoup, Jérémy. Nicolas ?
Bon, alors j'ai travaillé un peu les questions du pape du fake news.
Bénédiction sur vous.
Moi, je suis le disciple.
Ainsi que donc, j'allais dire, le préfet de la doctrine de la foi, Mike Borowski. Et donc, l'église en question qui a brûlé la veille du 15 avril, c'est l'église de Biussac. Petite église magnifique, d'ailleurs classée monument historique. Alors pour ceux qui veulent mettre ou qui remettre l'église au centre du village, ça sera raté. Alors, autre chose à la sagacité de Pierre Jovanovic. Et ça, en termes de synchronicité, je rappelle que c'était ma chronique de la semaine dernière. Je dirais, j'arrive pour recevoir, mes lauriers. Je rappelais ce que c'était que la synchronie. Non. Mais je rappelais ce que c'était que
là. Là, t'as mis tes lunettes et je me dis, comment c'est quelque chose un peu en avance.
Parce que j'ai pris des notes.
Ah, d'accord.
Surtout ce que j'avais pendant une heure, vous avez parlé, j'ai eu le temps de prendre des notes.
Très bien.
Et donc, je voulais vous restituer une ou deux petites choses. Donc là, synchronicité.
On sent les lettres de Sciences Po là.
La synchronicité, j'y suis passé.
Bah oui.
Ça me fait penser. Oui, alors un peu comme Macron, quand on l'a entendu la dernière fois, il était en Grèce, à Athènes, et il avait fait son discours, il va nous en refaire un prochainement, qui doit marquer les annales de l'Union européenne. On sentait en effet les maîtres communs que nous avions eu à Sciences Po. Moi, je préparais l'ENA à l'époque, et lui, il était entré à Sciences Po, et on avait les mêmes profs, donc j'avais retrouvé dans son discours les ayatollahs, tels que Trichet et autres, qui vaticinaient sur l'Union européenne, et Macron avait dit...
Heureusement que tu n'as pas fait l'ENA, hein. Très sincèrement, heureusement.
Non, moi, je me suis orienté vers la philosophie.
T'as préféré venir ici.
Voilà, aussi.
C'est plus valorisant.
Une synchronicité, c'est un lien à causal et pourtant signifiant, une coïncidence qui arrive en même temps où nous rappelons que l'histoire est cyclique, comme le temps, à date anniversaire. Bah, tenez-vous bien. Donc, 15 avril, Notre-Dame en feu et sa flèche s'effondrait. Aujourd'hui, c'est la bourse de Copenhague.
Oui.
Haute de 54 mètres, sa flèche vient de s'effondrer. Ce bâtiment, donc construit au XVIIe siècle, est considéré comme l'une des institutions les plus emblématiques de l'économie danoise. Il est situé près du château de Christiansborg. On peut dire, on va voir d'ailleurs si Mike connaît bien son anglais, « Something is rotten in the state of Denmark ».
Oui, Shakespeare.
Quelque chose est pourri,
oui, au royaume
soit
du Danemark.
Alors, selon les traductions, royaume ou empire.
Dans Hamlet, non ?
Ah, bravo !
Voilà.
Exactement.
T'as vu que je lis les livres.
Hamlet, Shakespeare. Justement, tu n'as pas lu que 888. Exceptionnel. Donc, en tout cas, c'est étonnant, cette synchronicité s'écroule, parce que son 777, il couplait...
C'est la chute du Wall Street
et du Vatican. De la bourse et du Vatican. Et là, comme par un clin d'œil, comme par fait exprès, assez étonnant, j'avoue que moi-même j'en étais étonné, sachant que le soir même, j'étais invité à l'émission de Mike et je t'avais en face de moi, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose d'incroyable. La flèche qui à nouveau s'écroule, sachant que c'est sur le plan symbolique, une flèche, c'est-à-dire cette espèce de lien vers le ciel qui s'effondre,
absolument,
est quelque chose d'inouï. Donc j'ai été saisi, vraiment, de cette synchronicité anniversaire, avec donc 5 ans après, la veille, l'église au cœur du village, qui vraiment est la structure même, plus encore que de Notre-Dame et que les cathédrales, de ce qu'est la France dans sa ruralité la plus profonde. L'église au centre du village qui brûle, et le lendemain, un pays que je connais bien, le Danemark, Copenhague,
sa bourse. En plus, c'est le toit qui est parti.
À nouveau,
parti, oui,
comme d'habitude.
Absolument. Donc on voit, mais ça rejoint ce que j'ai dit juste tout à l'heure, et le livre 777, bien entendu, c'est que c'est la dette, c'est cette utilisation folle, nucléaire, de la fausse monnaie qui va déclencher effectivement un tremblement de terre massif. C'est-à-dire que tous les distributeurs seront arrêtés. Je vous signale que la Grèce est déjà passée par là. Hein, en Grèce, la Grèce, pendant 3 mois, les Grecs ne pouvaient pas retirer plus de 50 euros de mémoire, hein, ou 40. Voilà, je m'en souviens très bien. Chypre, c'était la même chose. Et moi, je vous rappelle l'interview du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, Monsieur King, qui a déclaré donc en 2009, en janvier 2009, c'est pas si vieux que ça, parce que Wall Street a explosé le 29 septembre, hein, donc voilà, 3 mois après, 4 mois. Il avait déclaré que au mois d'octobre, il était à 2 doigts, si je puis dire, d'appuyer sur le bouton pour stopper la totalité des distributeurs automatiques de billets en Angleterre. Voilà. Donc, et en fait, il y a eu cette fameuse réunion avec Sarkozy, la Banque Centrale Européenne, enfin, la Fed, le patron de la Fed.
Sarkozy.
Non, mais c'est bon de le rappeler. Exactement. Voilà. C'est cette réunion-là. Et ils ont dit, on va prendre l'argent du peuple pour sauver les banques. Voilà. Alors qu'ils auraient dû les nationaliser. Hein, parce que, voilà. Quand ils perdent de l'argent, c'est public. Mais quand ils en gagnent, c'est pour eux.
Bien sûr.
C'est pas de moi.
C'est tout le paradoxe.
C'est tout le paradoxe de ce capitalisme qui est devenu complètement pourri, qui est devenu inhumain. Inhumain. C'est un capitalisme. Moi, je l'ai vu
comme dans un divorce économique. Hein, quand tout ce qui est à moi, mais tout ce qui est à toi, ça.
Exactement. Voilà, c'est ça.
Et concernant l'argent liquide, l'euro numérique,
qu'est-ce ils veulent supprimer l'argent liquide. J'invente rien. C'est à cause de ça. J'avais déclaré il y a 7 ans, leur but, c'est de supprimer l'argent liquide. Oui, fake news, c'était Le Monde. Hein, voilà. Aujourd'hui, c'est à la une de toute la presse régionale et dans toute l'Europe. Suppression de l'argent liquide pour 2030.
Ils prévoient d'installer déjà un système à partir de 2027-2028, j'avais vu, et qu'après, ça serait complètement généralisé.
Vous confirmez, mais dans mon livre précédent, donc 777, je rapportais les propos du PDG de Visa, donc à San Mateo, en Californie, donc c'est le grand patron de Visa. Ce mec est aussi puissant que la CIA. Mmh. Il a accès à tous les comptes des milliards de gens qui ont une carte Visa. C'est quand même pas rien.
Hein. Ah oui, c'est le un des plus
grands
pouvoirs.
Il voit leurs dépenses en temps réel, il voit leur vie en temps réel. Voilà, grosso modo. Et il avait déjà déclaré à l'époque, il avait donné les premiers signes, ça vous coûtera plus cher de payer, bientôt, ça vous coûtera plus cher de payer en liquide qu'avec ma carte. Mmh. Hein, voilà.
Mais d'ailleurs, il faut dire à propos de ça que c'est partout pareil, également en Russie et en Chine. Hein. Je rappelle que la Russie travaille également sur un rouble numérique et la Chine également.
Ils sont obligés. Comme toutes les banques centrales travaillent sur sur leur monnaie numérique, mais ça prend pas. Ça prend pas. Ça a été un échec partout où ils l'ont lancé. Ça ne prend pas. Mais ils sont obligés de le faire pour les échanges informatique.
Oui, internationaux. Hein,
c'est-à-dire que si vous avez un euro numérique et que vous allez en Suisse ou en Belgique, il faut que la valeur, si vous payez 10 euros, que ça passe de la France à la Belgique. Exactement comme aujourd'hui, c'est Visa qui le fait aujourd'hui. Voilà, vous me suivez ?
Oui. Voilà. D'ailleurs, je crois que la Suisse a constitutionnalisé le fait qu'il y ait l'argent liquide.
Oui, bien sûr, mais l'Autriche veut garder absolument, la Suède veut garder l'argent liquide.
La Hongrie a aussi constitutionnalisé le fait que c'était sa monnaie, qu'elle était liquide. Donc il y a quand même des pays qui constitutionnalisent
l'argent
liquide.
Alors qu'en Chine, l'argent liquide a disparu totalement.
Oui,
seuls les paysans au fin fond de la Chine utilisent encore de l'argent liquide. Ah oui, mais dans les villes, c'est fini. Numérique.
Cher Nicolas, tu voulais rebondir.
Sur l'argent liquide, parce que ça m'intéresse, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, parce que Christine Lagarde avait d'ailleurs été piégée par
Oui.
Et elle avait annoncé au départ que c'était en octobre de l'année dernière, je crois, qu'il devait y avoir le truc, finalement ça s'est pas fait.
Non, mais ils sont en retard.
Mais voilà, ils sont en retard. Mais bon, vous connaissez très bien, parce que vous parlez souvent de Davos, de l'agenda 2030, etc. Mais on est un petit peu dans ce cas de figure-là, et je pense qu'aujourd'hui, à part dire non, résister, moi je vois que les distributeurs de billets, maintenant, on peut retirer que 300 euros suivant les banques.
Bien sûr, évidemment.
Je vois à Paris, il y a des endroits où on ne peut plus payer en liquide. C'est très compliqué, et c'est une forme de dictature aussi qui nous est imposée de manière presque naturelle. Quoi. Donc aujourd'hui, avec le Covid...
Non, mais il y a aussi l'évolution de l'usage de la monnaie, c'est-à-dire qu'on est passé des pièces dans nos poches qui étaient lourdes, on est passé au billet papier, puis ensuite au billet de banque, puis ensuite à la carte de crédit. Moi, je vous rappelle que quand la première carte de crédit a été lancée, personne n'y croyait. Les mecs qui ont lancé ça, ils se sont battus bec et ongles.
Eh ben, maintenant, c'est même plus la carte de crédit, c'est le téléphone. Hein.
Oui, c'était
directement.
Exactement.
On paye directement avec le téléphone.
Exactement. Bah, en Chine,
et la puce dans,
au Brésil, au Brésil, en fait, au Brésil, il y a un système qui s'appelle de mémoire Pix et qui est en train d'effacer Mastercard et Visa.
Oui.
C'est-à-dire que chaque personne avec son téléphone peut envoyer de l'argent, faire des virements, sans que la banque sans intermédiaire, voilà,
oui.
C'est ça que je voulais dire. Mais ça n'enlève pas, et c'est pour ça, c'est une course de vitesse pour eux, 35 trilliards de dettes. Si vous empêchez les gens de sortir l'argent de la banque, ils ont sauvé leur mise, ils ont sauvé leurs fesses. C'est pour ça, c'est une course de vitesse.
Voilà. Bah, ils auront sauvé leurs fesses, parce qu'ils vont réussir à empêcher les gens à retirer de leur argent.
Oui, mais vous avez encore le problème, si vous voulez, c'est que vous avez aujourd'hui des banques qui sont qui tiennent pas debout, qui tiennent encore debout parce que la Fed met au bout, ou parce que la Banque Centrale met au bout.
Les médias subventionnés.
Donc c'est des... Mais, attends, rappelez-vous, c'est pas si vieux que ça. Hein. C'était il y a un an, je te rappelle, le Crédit Suisse volait dans les airs.
Oui.
Il y a 5 banques aux États-Unis qui ont volé dans les airs. Alors qu'on nous avait dit, mais tout va bien, depuis 2007, tout a été réparé. Nous, banquiers, nous sommes des gens honnêtes. T'as raison, oui. Voilà. C'est, non, il y a un sérieux problème. Il y a un grave, gravissime problème. Regardez la Société Générale. La Société Générale, aujourd'hui, c'est comme le Concorde, hein, quand il a décollé de Roissy avec des flammes derrière lui. C'est, aujourd'hui, la Société Générale, c'est ça. Ils sont en train de tout vendre, tout. Bientôt, ils vont vendre le siège social à Boulevard Haussmann, ce magnifique siège social Art déco.
Or, c'est une banque que l'on dit systémique, c'est-à-dire que si elle venait à s'écrouler, c'est l'ensemble du système
systémique.
BNP Paribas vend son siège.
Je parle de Société Générale. Et Société Générale va être amenée, au point où ils en sont, parce qu'ils ont tout vendu, hein. Les fonds de tiroir, le tiroir, la grand-mère, le grand-père, tout. Là, c'est sur ma revue de presse de ce matin, de lundi. Ils sont en train de tout vendre, littéralement. Des choses qu'ils ont mis au point depuis 1865. Vous réalisez ? Vous imaginez que vous ayez dans votre famille, vous avez deux, trois immeubles qui sont le résultat du travail de votre arrière-grand-père, etc. Puis d'un seul coup, parce que vous avez fait des conneries, vous êtes obligé de tout vendre. Ben c'est le cas de la Société Générale aujourd'hui.
Et leur plus grosse filiale dans le monde était en Russie, d'ailleurs, et ils ont tout abandonné.
Eh oui.
Oui, mais occasion. Ça, c'était prévu. Vous savez,
ouais, mais c'était un actif qui...
Nicolas, vous connaissez bien... Moi, en 2014, à la radio ici maintenant, et avec la revue de presse, les Américains étaient persuadés que les Russes allaient leur déclarer la guerre à ce moment-là, en 2014. Et ça s'est passé, finalement, il y a 2 ans seulement. Mais ce que j'ai vu, c'est Renault, du jour au lendemain, a fermé toute son usine en 2014. Parce qu'ils étaient persuadés qu'il y aurait la guerre, que les Russes attaqueraient l'Ukraine. C'était en 2014.
Ah oui, de toute façon, mais dès 2014,
c'est à partir de 2014
Crimée,
qu'ils ont commencé à ramener toutes les... Et Renault a fermé là-bas.
La Crimée, oui.
On va revenir au bouquin, hein, parce que c'est quand même... Ce qui est important, parce que les banques, on en a beaucoup parlé.
Et oui, mais vous avez vu dans le livre...
Bien sûr, évidemment.
Qu'ils ont essayé d'utiliser la vision à distance de la CIA pour battre Wall Street. C'est ça qui est génial.
J'allais parler de la CIA et cet argent investi sur le pouvoir du Christ.
Ouais. C'est
fou quand même. Ça, on apprend ça dans le livre.
Ceux qui... Alors, vous savez, il y a un truc qui est amusant, c'est que chez Hanouna, il y a une semaine, je crois, il y a un monsieur dont je parle, Edward Deims, qui est dans le livre, et qui faisait partie de cette unité de la CIA, de vision à distance. Alors, maintenant, avec l'âge, il n'est peut-être pas plus au point, mais il a quand même donné à 3 mètres près l'endroit où était le corps du petit Émile. Faut...
C'est vrai.
Voilà. Moi, j'étais scotché de le voir, de le voir chez Hanouna. Je n'en revenais pas. Il y a d'avoir une connexion intéressante. Néanmoins, la CIA a prouvé qu'on pouvait voir le futur, a prouvé qu'on pouvait sortir de son corps, on pouvait revenir dans son corps. Donc, c'est les travaux de la CIA. Et on pourrait me dire, oui, mais vous vous faites enfler par la CIA. OK. Sauf que l'un de ces hommes... l'adjudant-chef Mac Monegal, quand il a écrit son livre, il a été testé, mis au défi par la télévision japonaise et la télévision américaine, de retrouver des gens perdus, des gens dont on n'avait pas de nouvelles, au Japon, alors que lui-même se trouvait en Virginie. Et il les a retrouvés. Donc, alors attention, tous ces gens ont eu des expériences aux frontières de la mort. Ils sont passés dans le tunnel, ils ont fusionné dans la lumière du
Christ,
la source, la fameuse source. Et quand ils sont revenus, effectivement, ils ont eu ces pouvoirs extrasensoriels ou peu importe. Et ce que je montre dans ce livre, c'est que le Christ, lui, utilise ces pouvoirs que la CIA a montrés. Il l'a utilisé de tout le temps. Et du coup, grâce à la CIA, ça valide tout ce que les évangélistes racontent à propos de la vie du Christ. C'est ça qui est dingue. Enfin, Nicolas, tu l'as lu parce que
Nicolas qui l'a lu, qui a fait des notes, et je voudrais bien qu'il en parle justement de ces pouvoirs du Christ aussi.
Bah, les pouvoirs du Christ, moi, quand j'ai lu le livre, ça m'a rappelé un peu le catéchisme, parce que bon, j'ai fait ma.
Oh non, t'abuses là. C'est pas gentil là. Non, franchement, c'est pas gentil parce que alors s'il y a bien un truc qui est pas dans le catéchisme.
C'est l'anti-catéchisme.
Toi, tu l'as pas lu.
Excellent.
Toi, tu l'as pas lu. Là, t'es grillé. T'es grillé.
Voilà. Parlons Marie de plus en
moins. T'es grillé, mon pote.
Parle-nous de
là.
Parle-nous du Christ et de son humour noir. L'humour noir du Christ, c'est amusant, par exemple.
Oui, l'humour noir du Christ, non, mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a dit. C'est...
Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon
pierre,
église.
Je bâtirai.
Ça, c'est, il offre une interprétation de cette formule que tout le monde connaît, absolument inimaginable. Et pourtant, j'en ai fait des interprétations. Et ça fait des années que je travaille sur cette formule, sur la pierre d'achoppement, la pierre de scandale, le scandalon. Mais je n'avais pas vu, en effet, ce qui t'a saisi un jour en allant à un enterrement de quelqu'un.
Ayant enterré Paul Jarvis.
Tu deviens de plus en plus spirituel, hein, je remarque.
Non, mais ça a toujours. Disons que j'ose petit à petit.
Il a toujours été. Mais avec le livre 888, ça remue.
Mais il le devient depuis Macron l'Antéchrist et avec le livre 888. Non, mais c'est vrai.
Non, c'est pas Macron l'Antéchrist. C'est vrai, vous inquiétez pas, il n'est pas à la hauteur. Il n'a pas le niveau. Non, mais vas-y.
Cette idée que il va bâtir son église sur une pierre, c'est-à-dire sur cette notion, les pierres, donc il y a un jeu de mots évidemment, mais c'est l'humour noir, puisqu'en fait il dit « je vais la bâtir sur ta mort ». Sur ta mort,
sur ton cadavre.
Puisque, en effet, il y a cette habitude qu'on retrouve dans la liste de Schindler, par exemple, comme film, avec les Justes, où chacun va déposer une pierre sur la tombe.
Les Juifs ne déposent, il faut que nos spectateurs
comprennent. On explique, cette pierre.
Les Juifs ne déposent pas de fleurs sur les tombes. Voilà, c'est pour marquer leur passage et leur affection, ils prennent une pierre, un galet, machin, et ils le posent sur la tombe. Voilà, c'est d'ailleurs il y a plein de photos dans le livre. Et moi c'est en ayant assisté à l'enterrement de Paul Vermus, donc qui était un copain journaliste depuis 40 ans, voilà. Et c'est au moment où ils étaient en train de mettre le cercueil dans je regardais un peu autour et je voyais que toutes les tombes étaient salies. Il y avait des débris de partout. Mais en fait, c'était pas des débris. C'est après que j'ai compris. C'était pas de la saleté. C'était vraiment les gens qui étaient venus sur la tombe voisine et qui avaient posé. Et c'est d'un coup, j'ai une sorte d'illumination. Parce que pour moi, le mystère, quand j'ai lu l'évangile, je dis, mais pourquoi est-ce que le Christ, le mec qui s'appelle Simon, le Christ arrive en deux secondes, tu t'appelles plus Simon, tu t'appelles Pierre. En plus, un objet. Un objet. Attention, ça va plus loin. Il lui donne un nom d'objet. Tiens, je te vois la première fois, tu t'appelles Tasse. C'est sur ces tasses.
Mug.
Oui, mug. Sur le mug. Et c'est ça qui était génial. Et d'un seul coup, j'ai compris. Et je me suis dit, bon, il y a d'autres théologiens, ils ont fait le truc. Pas du tout, personne. Voilà. Mais parce que personne n'a jamais assisté à un enterrement d'un ami juif, tout simplement. Voilà. Parce que pour c'est-à-dire, le voir sur la liste Schindler, c'est une chose. Mais quand on y est vraiment, là, c'est autre chose. Parce que là, on se dit, mais pourquoi il y a...
Le cœur de la chrétienté, c'est le tombeau de Pierre.
Exactement.
Et il l'annonce avec 2000 ans d'avance, donc en quelque sorte, évidemment, il voit Et lui, là où la CIA a des difficultés, ou ceux qui ont des expériences de mort imminente arrivent plus ou moins, le Christ, lui, c'est fulgurant.
Il voit tout, absolument, il voit tout.
Tout s'est couvert.
Il voit tout. Et là, du coup, ce livre montre la super... Enfin, je veux dire, mais c'est même c'est inconcevable. La puissance du Christ est extraordinaire. Je veux dire, quand il prend une hostie et que ça se transforme en un myocarde, ou un bout de myocarde, mais pas n'importe quel myocarde. Le myocarde d'un homme qui était en train de mourir étouffé. Je veux dire, les analyses que je donne des chirurgiens est absolument... Attends, j'étais le premier sur... passez-moi l'expression, j'étais sur le cul. Hein, je pouvais même pas que ça... Là, ça va tellement loin.
On peut parler du groupe sanguin aussi.
Et le groupe sanguin, toujours le
AB sanguin. Qui est le moins connu.
Le négatif, voilà. C'est extraordinaire. Le Christ est là, il voit tout. Alors on est dit, oui, on attend l'heure de... Non, c'est pas le Christ qui va revenir, c'est nous qui allons le rejoindre. C'est pas pareil.
Tiens, Jérémy...
parce que les gens ils disent, ouais, j'attends le retour du Christ,
tu
vas le rejoindre avant qu'il arrive.
Ah non, tu sens moins spirituel que...
Non, mais moi, je suis pas spirituel, en effet. Enfin, spirituel. Je suis pas sur le domaine religieux, en tout cas, je ne m'avance pas, parce que c'est pas du tout mon domaine, c'est pas du tout ma...
C'est pas mon secteur.
C'est pas mon secteur, voilà. Ouais. Moi, je suis sur un secteur...
Il écrit quand même des chiffres kabbalistiques sur...
Non, mais voilà, le domaine religieux, ça, je...
Pourquoi,
ça, je vous le laisse.
Oui, mais la France, elle est indissociable du religieux, mais du Christ.
Mais bien sûr, mais la France et plus généralement l'Europe et la civilisation occidentale, c'est la religion, mais c'est pas que la religion. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas ce penchant religieux, c'est pas mon domaine du tout.
Moi, j'aimerais bien qu'on distingue des fois l'Occident et l'Europe. Je trouve que tu as cette tendance.
Ah oui, pour moi.
Tu n'es pas le seul.
Non, je... mais
à mettre des Américains.
Alors que ce qui renaîtra, et ce qui a déjà renaît plusieurs fois de ses cendres, tel le phénix, c'est l'Europe.
Oui, l'Europe.
L'Amérique, je ne suis pas persuadé qu'elle sorte de l'Empire. Mais
l'Amérique va périr en guerre civile.
Mais c'est,
on le voit déjà.
Mais ça, il y aura une guerre civile aux États-Unis. Mais de toute façon, c'est leur histoire aux États-Unis.
Oui,
c'est un peuple.
Vu l'amour que les États-Unis portent à la France, il suffit de lire le bouquin de Branca, l'ami américain. Moi, je ne lis pas mon destin à celui des États-Unis d'Amérique.
Non, mais ça, je suis d'accord. Mais il faut distinguer après l'État profond américain néoconservateur et le peuple américain. Et puis, il n'y a pas que l'Amérique. Il y a aussi le Canada. Il y a les Québécois qui parlent français aussi. Qui sont très francophiles. Donc il y a quand même
leur premier ministre.
Non, pas Justin Trudeau. Justin Trudeau, lui, c'est une autre idéologie encore, qui est proche d'ailleurs de celle d'Emmanuel Macron.
Mais il est très très proche.
Mais en tout cas
de Gabriel Attal.
Il y a Gabriel Attal entre eux.
Il y est allé Gabriel Attal récemment d'ailleurs. Mais il y a une, en tout cas, l'Amérique du Nord est une branche de la civilisation occidentale. Après, évidemment que nous, notre cœur est en Europe, et que c'est évidemment l'Europe d'abord qui compte, parce que c'est notre continent et que c'est surtout l'endroit où s'est construit la civilisation occidentale, contrairement à l'Amérique qui est une pièce rapportée. Donc évidemment qu'en Europe, pour revenir
c'est
à la question de Mike...
C'est une pièce protestante surtout.
Oui, oui, aussi, et anglo-saxonne, avec toute une logique différente...
protestante.
Oui, voilà, donc tout différente de la nôtre. Mais
une branche un peu hérétique, faut le dire.
Voilà, mais en tout cas...
Très bien, bravo.
Attends, il faut quand même rappeler que les protestants... il y a énormément d'écrits en disant que le Vatican n'est pas légitime, que le pape n'est pas légitime, parce que Pierre n'est pas à Rome.
Déjà. Mais après, voilà, pour répondre à la question de Mike sur l'Europe, je pense qu'en effet, l'Europe a une histoire religieuse qui est importante et qui a en effet façonné aussi le continent européen et notre civilisation. Mais la civilisation à laquelle on appartient n'est pas que la religion. Il y a aussi tout un tas d'autres choses, l'histoire qui nous lie, le mode de vie, la culture, les valeurs.
Oui, mais l'histoire, elle est basée sur le christianisme.
Oui, c'est
difficile de tout mettre...
Dire que l'Europe et l'Occident, ce n'est que le christianisme, je pense que c'est pas une bonne lecture. C'est le christianisme est une période et a eu un impact extrêmement important sur notre civilisation, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas
que... Est-ce que tu fais partie de la jeunesse? Parce que j'ai remarqué ça en allant à l'Iliade, chez les amis de l'Iliade, et d'ailleurs je salue Romain Petitjean qui me regarde sûrement. J'étais cette semaine et l'année dernière. Que le paganisme prend beaucoup d'espace dorénavant chez les plus jeunes.
Tout à fait.
Il y a le paganisme, mais moi je parlerai plus généralement de Rome et Athènes, qui ont aussi fondé une partie de nos valeurs, de notre philosophie.
Ce que tu soulignes, oui, c'est effectivement, c'est-à-dire la démission effectivement de l'Église actuelle fait que, d'une part, la génération Harry Potter a été absolument phénoménale. Mais attends, Potter, ça date d'il y a 20 ans déjà.
C'est ma génération.
Les gamins qui ont lu Harry Potter, ils sont dans le paganisme aujourd'hui.
Oui.
Et puis, ils vont passer par le paganisme.
Les druides,
ils vont arriver progressivement, à un moment donné, au christianisme.
Mais on peut y revenir.
Ouais, voilà.
Non, mais ils peuvent y revenir.
Moi, je le vois, ça.
Non, mais voilà, moi, ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'en effet, le christianisme a eu un impact extrêmement important, mais qu'il y a aussi...
Là, ça va être la génération Harry Potter, quoi.
Non. Mais on a tout un tas de nos valeurs et notre mode de vie et de notre philosophie qui est quand même issue de Rome et Athènes. À cette époque-là, il n'y avait pas encore le christianisme et c'est là pourtant qu'a débuté la civilisation occidentale. Donc dire que la civilisation occidentale et l'Europe n'est que le christianisme alors qu'elle a commencé l'arrivée.
Bon, là, vous jouez sur les mots.
Ah bah non, mais elle a commencé avant le christianisme.
La chrétienté, elle est néo-chrétienne. Hein, là, tous les grands penseurs diront, elle est bien plus néo-chrétienne, c'est-à-dire que la base du christianisme et son implantation en Europe, elle est le fait justement de ces indo-européens que l'on retrouve à Athènes. C'est-à-dire la Trinité ou la Trinité.
J'aimerais avoir un petit mot là de Nicolas Bouvier, il ne parle pas là. Qu'est-ce qui se passe?
J'écoute religieusement si je
peux. Bah oui, justement, je veux savoir ton avis là-dessus.
Tout à l'heure, je me suis fait un peu bâcher. Mais
non, allez, on ne te bâche pas, tu es libre de parler.
Non, parce que je parlais de la communion, parce que c'est vrai qu'entre le discours, entre guillemets, que j'ai pu recevoir des sœurs à la communion, au catéchisme, etc., et le bouquin de Pierre, forcément, j'ai vu un gouffre et je me suis dit, mais alors, tout ce que j'ai appris au catéchisme, c'était du vent. Alors, c'est assez ironique parce qu'on parlait justement...
Ah oui, non, vu sous cet angle-là, pas ce que vous avez dit tout à l'heure.
Mais non, mais ça m'a rappelé le catéchisme, mais j'ai pas eu le temps
c'est
de
le dire. Il s'est rattrapé, là.
C'est vrai. Dès que Pierre a entendu le mot catéchisme, il a vu rouge. Alors évidemment, il n'a pas pu finir.
Non, mais c'est
vraiment ça, le catéchisme.
C'est juste pour montrer un petit peu les discours qu'on a dans les cours de catéchisme, qui remontent pour moi à plus de 20 ans, mais c'est vrai que je vois le décalage total, et c'est vrai qu'en lisant le bouquin de Pierre, ce qui est intéressant, c'est que même pour ceux qui sont athées, pour qui la religion, ça les dépasse complètement, moi je ne suis pas un spécialiste des questions religieuses ou même géopolitiques, mais j'ai trouvé que c'était très pédagogique et bien expliqué, et puis le rapport...
Et ça ramène tellement de gens à la foi, ces bouquins, on ne peut pas le nier, point, après on peut ne pas être d'accord sur
tout. Je pense que l'incendie de Notre-Dame aussi, ce n'est pas qu'un événement, et quand j'ai vu sur les réseaux sociaux certains dire non mais Notre-Dame c'est un non-événement, c'est pas important.
Il n'y a que l'extrême gauche qui dit ça.
Voilà, mais l'incendie de Notre-Dame, ça a réveillé aussi une sorte de foi, de passion, très enfouie, et c'est vrai que depuis des décennies, on voit que les églises, moi je l'ai constaté, les églises s'étaient pas mal vidées, puis... On revient quand même à certaines cérémonies, à un retour à la foi. Et je pense que la période Covid, qui a été une forme de guerre spirituelle, il faut le dire aussi, fait qu'on revient à cette spiritualité. Moi, dans le cadre de mon ancien métier, j'étais très intéressé par le chamanisme, par exemple. On parlait du paganisme. Alors, c'est vrai que je suis de la génération d'Harry Potter, donc forcément, c'est pas grave.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on vit au niveau civilisationnel, religieux, que ce soit en France ou dans le monde, je crois qu'il y a un retour au christianisme de manière très forte. Voilà.
Très fort, ça m'étonne.
De plus en plus fort, peut-être.
Non.
Je reçois ça dans la nouvelle génération.
Il y a déjà plus de prêtres, hein, et les rares prêtres qu'il y a, c'est la plupart sont des Africains importés de pays. Les mecs, ils parlent même pas français, ou alors ils parlent français juste avec le texte de la messe. Et, sortis de là, ils sont complètement perdus. Ça donne pas envie d'aller à la messe. Première chose. Deuxième chose. Je crois que Nicolas Stocker en avait déjà parlé sur Radio Courtoisie, c'est que maintenant l'Église de France nous donne des leçons en disant pour qui on doit voter, nous donne des leçons d'éducation politique et ainsi de suite. Donc là, je trouve que là ils sortent complètement de leur secteur, hein, c'est le cas de le dire.
C'est vrai.
On va pas à l'Église pour recevoir des leçons de morale politique. Déjà qu'ils nous donnent des leçons de morale le sexe.
Mais c'est là le problème justement. J'avais oublié de vous répondre sur ça tout à l'heure par rapport au Vatican et la cage aux folles. Le problème, c'est pas ce qu'ils font, on s'en fiche. Le problème, c'est justement la différence de message. C'est-à-dire qu'ils vont en effet blâmer tout un tas de choses comme le divorce ou ou comme la liberté sexuelle dans nos sociétés, alors que eux-mêmes ne sont absolument pas bien placés.
C'est les pires,
bien sûr. Et c'est les pires. C'est donc les le pires. Problème, c'est la différence de message. Après que ces gens, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais le problème, c'est le message.
Oui, mais voilà. Justement,
attends, non, ils font quand même foi.
Oui, non, mais c'est ça. Voilà, le
c'est
oui,
quand même, c'est quand même grave parce qu'on n'a pas le même problème dans l'Église orthodoxe. Hein,
non,
je rappelle,
non,
hein.
Oui, 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 oui.
Tu vas en Bulgarie, les églises sont pleines. Hein.
Oui, bah oui, oui, oui. Non, mais le problème,
à Pâques, attends, j'étais une à Athènes. La messe dure 5 heures. 5 heures. Et à un moment donné, moi, j'en pouvais plus. Je veux dire.
5 heures de messe.
J'en pouvais plus.
Non, là, personne ne peut rester 5 heures.
Non, mais si, les Grecs, ils étaient. On se lève, machin, ils chantent. Attends, c'est une communion du peuple. Ouais. Et les prêtres sont mariés, et ils n'ont pas de ce problème.
Mais parce qu'ils sont mariés.
De la destruction
mais...
de l'Église, telle justement, que je le montre dans le 888.
Est-ce que les affaires pédocriminelles et tous les scandales.
Bah, évidemment, ça, voilà. Bah, ça contribue à la destruction, dans évidemment. Mais ça fait quand même 50 ans que ça dure.
Merci à vous, chers amis, parce que je sens un édito de quelques tomes de la part de Nicolas Stoker. Et à 20h30, on est parti parce que
tu vas tous les lire les tomes, tiens. Tu vas voir.
Mais avant ça, avant ton édito, les petites annonces.
Nous sommes en guerre.
L'euro numérique arrive à grands pas. Dans moins de 5 ans, vous pourrez dire au revoir à vos libertés. Les élites prévoient de contrôler toutes vos transactions, de restreindre vos libertés de mouvement et même instaurer un revenu universel catastrophique pour votre épargne. Géopolitique Profonde a travaillé pendant 9 mois sur une solution confidentielle pour ne pas subir ce futur dystopique. Cliquez sur le premier lien en description pour le découvrir. Ne laissez pas l'oligarchie vous enfermer dans le communisme 2.0.
Merci à vous d'être si nombreux, voilà, de plateau désordonné. Excusez-nous.
Tiens, je passe.
Un plateau où on se marre. Hein, hein.
Ah oui, c'est un sport.
Il devrait faire ça un peu, notre ami Morillo, là. Quand il nous regarde, là, fais un peu ça, bistrot. C'est un peu trop guindé, je trouve. Bon, voilà, Eric, hein, si tu nous regardes, sont un peu moins guindé.
Ah, mais il m'avait énervé, là, avec sa question, là.
T'as énervé. Oh. Voilà. Donc,
alors, message, et du coup, ça
bah, le message est passé.
Le message était passé. Mais il a fait très fort.
Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde, Général de la Warde. Voilà, Général de la Warde, écrit qui est Général de la Warde. Vous cliquez sur le lien sous la description et vous y abonnez. Ta chronique, cher Nicolas.
Tu as Laurent Ozon aussi, tu as...
Oui, Laurent Ozon, je ne connais pas.
Ah, mais Laurent Ozon, c'est un garçon brillant.
Ah, je veux dire, oui, il écrit tous les mois.
Je veux dire, franchement, il est top. Hein.
Je vais le citer dans cette petite chronique, vas-y. Justement. Donc, où on parle du Catechon, Catechon. Alors, je pensais, voilà, à Pierre Jovanovic, parce que ça vient de Saint-Paul, dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, et je sais qu'il aime son Saint-Paul, comme il aime son Saint-Augustin, ou son Saint-Jérôme aussi, père de la Vulgate. Que des squelettes saints de Pierre. Et d'ailleurs, moi, je te conseille de carrément, tu les appelles même plus saints. Tu dis Paul, tu dis Augustin.
Ah ben c'est ce que
Augustin de Bapaume, moi, je dis carrément. Oui, oui. Tellement, en effet, saint Augustin, des fois, a pu.
Tu sais, c'est les mêmes mecs, tu sais, qui ont couché avec toutes les prostituées du port, et puis ensuite, d'un seul coup, ils ont une sorte de révélation, et puis ensuite...
C'est fini,
y a plus de sexe. Tu vois, tu passes un truc, c'est genre alcoolique anonyme, tu vois.
Alors, ceci dit...
Moi, je résume la vie des saints, très simplement. Hein.
Des saints, S-A-I-N-T. voilà, le catechon, ça peut se traduire par rétenteur ou retardataire. Hein. C'est largement ignoré d'ailleurs par les chrétiens eux-mêmes. Saint Paul donc s'adressait ainsi. Maintenant, vous savez ce qui le retient, de sorte qu'il ne se révélera qu'au temps fixé pour lui, car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette puissance qui empêche, pour les théologiens, l'avènement du mal absolu et la fin du monde? Le catechon atténue profondément donc l'eschatologie chrétienne dans son acception la plus fataliste, hein, qui tend à considérer que le cours de l'histoire est tout entier entre les seules mains de la Providence. Bien non, le catéchon est donc mu par une volonté propre et n'est pas la marionnette de Dieu sur terre. Il est une puissance décisive dont l'action concrète fonderait un ordre conforme à l'idée chrétienne du bien, là où le désordre tendrait à s'insinuer. Hein, là, je cite Ozon, qui considère que le deuxième principe de thermodynamique, c'est-à-dire l'entropie, à opposer à la négantropie, eh bien, serait la définition dans la nature du mal. Alors cette puissance qui retient semble devoir s'analyser en une entité théologico-politique. Je terminerai d'ailleurs par un rappel d'un article dans la revue Stratégica de Pierre-Antoine Plaquevent de ton ami Mike Youssef Hindi.
Ah, mon ami.
Sur ce sujet, la Troisième Rome et le califat. Donc l'alliance de Poutine et d'Erdogan. Bon, moi j'avoue que je n'ai pas été convaincu. Par contre, je vais vous expliquer le catéchon selon Carl Schmitt, qui me paraît être une référence importante. Donc l'Église, l'institution de l'Église catholique romaine, vecteur et garante du dogme, est donc naturellement une composante du catéchon selon Carl Schmitt, reprenant à son compte l'idée développée par nombre de théologiens et de pères de l'Église. Mais parce que le catéchon ne saurait se réduire à une autorité spirituelle et suppose aussi la force d'action concrète du pouvoir politique, c'est plus précisément pour Carl Schmitt dans le Saint-Empire romain germanique, la chrétienté finalement, que le juriste envoyait une incarnation historique. Ah. Une figure duale, donc, à la fois théologique et politique que celle du catéchon. Et si elle apparaît clairement dans Respublica Christiana, c'est justement par la distinction formelle de ces deux ordres d'imperium et de sacerdotum, qui renvoie à la distinction entre le pouvoir, le potestas, et l'autorité, l'auctoritas, qui le légitime et le transcende. Là où les sociétés traditionnelles, bon, on se rappelle quand même, unissaient ce pouvoir temporel et spirituel, c'était le fameux roi-prêtre. Or, cette conception de la puissance qui retient ne pouvait valoir que dans un monde où tous les chemins menaient à Rome, où toute l'Europe chrétienne regardait vers le tombeau de Pierre comme vers le centre du monde et espérait la bénédiction de ses décisions politiques par les autorités romaines. Je fais encore référence, évidemment, à Pierre Jovanovic. Alors, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Certes, il convient de nuancer une approche trop européocentrique de la figure du catéchon, le monde chrétien ne se limitant ni à Rome, ni encore moins à l'Occident, et l'Église catholique latine n'étant pas la seule Église au monde. Cependant, sa forme historique sui generis lui a certainement confié une légitimité particulière, et c'est l'Empire d'Occident qui conserva le lien géographique avec le tombeau de Pierre, assise tellurique déterminante aux yeux de Carl Schmitt et de nombreux théologiens occidentaux, car elle permettait un rayonnement universel puissant, une juridiction universelle partant d'un seul et unique centre de gravité. L'Église orthodoxe, en revanche, s'est développée dans une relation toute différente à la localité, témoignage d'un enracinement nécessairement moins imposant symboliquement, voyant le siège de Pierre en celui de chaque évêque. L'idée que le catéchon serait aujourd'hui incarné par la Russie orthodoxe fleurit pourtant ça et là depuis une dizaine d'années, notamment dans les courants eurasistes, comme une réminiscence de l'idéal d'une troisième Rome incarnée par Moscou. Le patriarche Cyrille de Moscou, à la tête de l'Église orthodoxe russe, affirme régulièrement l'importance de la foi comme guide essentiel à la conduite des affaires publiques. N'en déplaise à Jérémy Marquis. Certes, il reproche aux sociétés d'Occident de s'estimer capable de fonder un ordre saint sur la négation de la chrétienté. De son côté, le gouvernement russe actuel manifeste, il est vrai, ostensiblement, son identité chrétienne. Il n'y a cependant là rien de comparable, néanmoins, avec l'articulation historique de l'impérium et du sacerdotum, ni avec le rayonnement universel de l'Église romaine d'autrefois. Une menace plane. Ne le voyant plus, l'Occident ne semble plus croire au catéchon et donc ne plus se penser capable, encore moins destiné, à l'incarner. Il faut dire que les prophéties hegeliennes, modernes, de la fin de l'histoire, de l'avènement d'un État universel et homogène, idylliques, vont encore bon train, privant l'idée du catéchon de sa raison d'être. C'est d'abord de son urgente nécessité qu'il faudra se convaincre pour pouvoir l'incarner à nouveau. Suivant l'intuition schmittienne, c'est certainement dans la redécouverte, c'est important ça, c'est certainement dans la redécouverte de la doctrine chrétienne véritable et ordonnée que se trouve la vitalité du catéchon, ce qui conforte aujourd'hui certains conservateurs dans l'Église face à un pape, par exemple, controversé, souvent décrit comme progressiste. Mais s'oppose encore la question de la portée politique de cette doctrine. Dans le monde contemporain, il n'y a plus guère de pieux monarques qui règnent ou les souverainetés déjà diluées dans les foules démocratiques se partage désormais entre une entité de monstres bureaucratiques. Alors si le diable est celui qui divise, le catéchon ne peut sans doute se retrouver que dans la convergence théologico-politique, une tendance à la réunification des deux ordres en équilibre, mais on en est loin. Donc je rappelle donc en conclusion cette idée qu'on pourrait retrouver éventuellement si un conflit venait à être généré avec l'Iran, c'est-à-dire pour des gens comme Youssef Hindi, l'alliance de Poutine et du califat, dont on rappelle quand même, ce qui moi ne m'enthousiasme guère, que le califat dont parle Youssef Hindi, c'est l'Empire ottoman, c'est l'ex-Turquie. Donc l'alliance d'Erdogan et de Poutine, j'avoue que chez moi, elle a du mal à passer.
Alors attends, là je
mais j'ai fini, voilà, j'ai fini ma chronique.
Donc, non, c'est intéressant, c'était très intéressant, mais moi je rappelle que tant qu'il y avait l'Empire ottoman, hein, qui gérait la Palestine, hein, la Judée, etc., toute cette région, bah, c'était quand même assez calme.
Et même Jérusalem.
Hein, et Jérusalem, c'était extrêmement calme.
Oui, mais alors l'islam d'aujourd'hui, si c'était sous domination ottomane, enfin Erdogan,
bah, déjà islamisé.
Quand on voit ce qui est devenu
les Turcs,
la cathédrale Sainte-Catherine.
Mais quand on voit en effet la position politique d'Erdogan qui est revenu sur le principe de la Turquie après la chute de l'Empire ottoman, qui était justement un État, qui était un État laïque, qui est laïcité justement d'ailleurs inspiré par la France. Aujourd'hui, Erdogan, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je crois que c'était au début des années 2000, a complètement renversé ce côté laïcard de la Turquie et a plongé la Turquie, donc a divisé déjà profondément la société turque, hein, parce qu'il y a quand même des Turcs qui restent tournés vers l'Europe, tournés vers la laïcité.
Et le côté laïcard des jeunes Turcs, lui, succédait justement à un califat.
À un califat, mais tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, on voit que...
Non, je ne suis pas d'accord.
Et Erdogan aujourd'hui...
Pardonnez-moi, mais arrêtez avec vos histoires de laïcité. Vous voyez bien que ça ne marche pas.
Non, mais d'accord.
Erdogan, si Erdogan a vu comme Mélenchon voit ce qui se passe en France, et l'émergence, en fait, d'une toute nouvelle mentalité pour beaucoup de jeunes Français d'origine maghrébine, eh bien, il accompagne Mélenchon comme Erdogan avant lui, il a accompagné le mouvement.
Oui.
C'est pas Erdogan
c'est ça,
qui a décidé du jour au lendemain, on va remettre le voile. C'est que beaucoup de Turcs, face à toutes les publicités de nénettes à poil dans les métros, les stations de bus, etc., elles l'ont très mal pris. Et du coup, ça a déclenché l'effet inverse.
Oui, mais il y a beaucoup de Turcs.
Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il y a un débat.
Oui, mais il y a quand même beaucoup de Turcs, notamment à Istanbul, etc., qui, eux, ne veulent pas un retour à l'islamisation de la société turque. Ils ne veulent pas des frères musulmans.
Écoutez-moi, j'ai fait 3 séjours en Turquie. Franchement, l'islam turc n'a rien à voir avec l'islam saoudien.
Ah non, c'est différent. Non.
Franchement, je vois des femmes en mini-jupe tenant la main dans la main avec sa copine qui, elle est bâchée ou voilée. Ils sont libres. C'est, contrairement à ce que... Non, alors là... 3 reportages. La dernière fois que tu y étais, c'est comme lui quand il a lu le livre.
Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que quand même Erdogan est réputé pour être proche des frères musulmans et que les frères musulmans n'ont pas vraiment une lecture idéologique et une lecture de l'islam politique que je trouve très ouverte.
Les hommes politiques ne sont que le reflet de ce qui se passe dans la société.
Oui, mais que les frères musulmans...
Donc,
mais ce n'est pas une raison pour dérouler le tapis
rouge
aux frères musulmans. Et ce n'est pas une raison pour que les frères musulmans aient aujourd'hui le pouvoir qu'ils ont et l'influence qu'ils ont. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a dans la société
mais
turque...
Mais arrêtez de parler des frères musulmans. Attendez, les Saoudiens aujourd'hui sont infiniment plus dangereux en France. Ce n'est pas les frères musulmans qui représentent le plus grand danger. L'islam qui est en France, c'est l'islam saoudien.
D'un point de vue
électoral... Attendez, vous mélangez tout, là.
Attendez, en Belgique, d'un point de vue électoral, par exemple, le seul groupe politique qui s'est présenté aux élections européennes en tant que parti, ce n'était pas au nom des Saoudiens, c'était au nom des frères musulmans. Et en Allemagne, c'est pareil. En Allemagne, vous avez un lobby très puissant des frères musulmans, beaucoup moins que saoudiens.
Donc, l'Allemagne, c'est normal, il y a tous les travailleurs turcs qui sont là depuis les années 50.
Je rappelle
50.
Que Erdogan avait fait un discours en Allemagne en disant qu'il appelait les Turcs vivant en Europe, pas seulement en Allemagne, donc y compris en France, à ne pas s'assimiler et à être justement dans cette vision de l'islam politique, etc. Et il appelait même à utiliser la technique du cheval de Troie. Donc il y a un intérêt politique derrière, que ce soit d'Erdogan, des
frères musulmans. Attendez, le cheval de Troie, c'est nous qui l'avons fait venir, je vous le rappelle. Monsieur Bouygues, qui faisait venir par avion entier des travailleurs musulmans,
mais je ne
simplement
dis pas que
parce
c'est
qu'ils étaient moins chers que les travailleurs européens.
Mais je n'ai jamais dit le contraire.
L'un n'empêche pas l'autre.
Mais l'un n'empêche exactement, l'un n'empêche pas l'autre. Je ne dis pas que nos politiques n'ont pas la responsabilité de cette immigration. Évidemment que la responsabilité est d'abord de nos élites depuis les années 70, depuis les années 80, qui ont permis cette immigration de s'infiltrer en Europe. Aujourd'hui, on a les conséquences de cela. Donc, il faut évidemment pointer du doigt les politiques qui en sont responsables, mais aussi, prendre, la conséquence de tout ça, et qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui sur notre territoire et en Europe des gens qui ont des nationalités européennes, qui sont là depuis 2-3 générations, et qui ne sont absolument pas dans un processus non seulement d'assimilation à notre culture, mais au contraire, dans une assimilation inverse.
Tu crois à l'assimilation ?
Non, c'est bidon, mon sentiment, l'assimilation, non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'assimilation.
Mais non, il n'y a pas d'assimilation, c'est un problème.
Il n'y a pas d'assimilation. On le voit bien, on le voit dans les... Ils détruisent les écoles, ils détruisent les maternelles, ils détruisent tout.
Mais c'est ça le problème, justement.
En revanche, en Turquie, ils détruisent tout.
C'est ça qui est... Inclusif.
En Turquie, ils ne détruisent pas les écoles. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, l'approche laïque ne peut pas fonctionner.
Non, mais attends.
Il me dit que je suis pour l'inclusion. Madame
Tu dis l'assimilation, c'est Pierre. Bidon.
Mais oui, c'est bidon, l'assimilation, ça n'existe pas. C'est encore Pierre, un truc républicain. Là.
C'est pour ça qu'on a
En effet, l'assimilation ne fonctionne pas, elle n'existe pas aujourd'hui.
L'assimilation se fait par la religion.
Oui, regardez aujourd'hui.
C'est quoi la différence entre vous deux, là ?
Non, mais la France est aussi le pays qui a la plus forte communauté asiatique, vietnamienne, chinoise. Or, on n'a pas de problème de criminalité, d'insécurité et de cession communautaire avec ces gens. On a un problème qu'avec une immigration spécifique. Donc ce n'est pas le modèle français le problème. Parce que si c'était le modèle français le problème, on aurait eu le même souci avec les Vietnamiens, avec les Chinois, etc. Le problème
le souci,
donc
je vais vous...
de la religion...
Alors, laissez-vous parler. Vas-y. Vas-y.
Le souci, il est très simple. J'ai vu à Istanbul, il y avait un quartier, alors il y avait des réfugiés syriens. Parce que, voilà. Et il y a un Syrien qui avait violé une Turque. Les Turcs ont fait une descente, ils ont brûlé l'immeuble entier. Donc il n'y a plus de viol après, du tout. C'est-à-dire qu'il y a le respect. Le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on a une approche humaniste, totalement chrétienne, on va dire, face à des gens qui n'en tiennent absolument pas compte et qui voient ça comme une faiblesse. Et
ils nous prennent pour des paillassons, hein.
Mais tout à fait.
Bah justement, cher Pierre, beaucoup me disent dans les commentaires que dans le livre, est-ce que tu as plutôt une vision orthodoxe, enfin chrétienne orientale plutôt que chrétienne
romaine ?
Non,
il y a pas de. On peut pas qualifier le livre de simplement, je dis que l'Église orthodoxe, elle tient la route. Point. Je veux dire, il n'y a pas tous ces scandales qui ont détruit le Vatican. C'est tout. Mais quand il s'agit, si vous voulez, de faire la messe, moi j'invite nos spectateurs à aller à une messe orthodoxe, vous allez voir la différence. C'est comme une messe traditionnelle en latin pour nous, grosso modo, c'est l'idée. Moi quand je vais à Saint-Eugène, l'église...
dans le 5e arrondissement.
Non, ça pas va. Dans le 5e.
Saint-Eugène, Sainte-Cécile, à côté des grands boulevards.
Ah. Non, c'est à côté de la BNP, monsieur.
Oui, de ce monument franc-maçon exceptionnel.
C'est côté du siècle de la BNP.
Vraiment, la BNP est magnifique.
La BNP a d'ailleurs a beaucoup aidé à la construction de cette magnifique église qui est une bonbonnière, d'ailleurs, parce qu'elle était construite, je crois, pour la Eugénie, de mémoire.
C'est à côté du musée Grévin, sinon. Hein, voilà.
Non, c'est loin. C'est quand
pas
même
trop loin.
Là, c'est une messe en latin, original, tel que moi je l'ai vécu quand j'étais enfant, parce que moi j'étais enfant de cœur pendant 3-4 ans. Hein. Et
moi, j'adorais. Tu comprends pourquoi le catéchisme.
Mais c'est ça.
Non, mais moi j'adorais ça. L'encens, moi j'étais défoncé à l'encens. C'est comme si je fumais des gros pétards. c'est pour ça que j'y allais. Non, mais sérieux, je planais littéralement. C'est gentiment, hein, mais je planais quand même, hein. Avec toutes les chansons en latin, etc.
J'aimerais entendre notre ami Nicolas. Nicolas ne parle pas là.
Plus près de toi,
Nicolas. Qu'est-ce que tu penses là, voilà, tu vois ce débat entre nos deux amis.
Ce sont en plus des sujets complexes d'actualité. On parlait un peu d'immigration, d'assimilation. Alors, vous parliez des prénoms tout à l'heure. Je sais qu'il y a un homme politique qui parlait justement des prénoms du calendrier. Qu'est-ce que vous en pensez de
Zemmour, moi je suis moyennement d'accord avec Zemmour. Je pense que j'ai vu par exemple beaucoup de Serbes, parce que je suis d'origine serbe, donc il y avait des prénoms typiquement Pays de l'Est, Predrag, etc. Enfin des prénoms qu'on ne connaît pas, qui se sont moyennement assimilés, qui ont eu beaucoup plus de mal à trouver du travail justement à cause de leurs prénoms. En revanche, là je parle de ce que je vraiment dans un environnement très limité, bien entendu, tous ceux qui ont francisé immédiatement leur prénom, Alors eux, effectivement, n'ont jamais aucun souci.
Mais bien sûr.
Voilà, c'est tout.
Mais parce
c'est une réalité.
Mais oui, voilà. Mais c'est un choix. C'est-à-dire qu'ils choisissent, quand vous donnez à vos enfants un prénom, alors que ce soit à consonance serbe ou à consonance maghrébine ou musulmane en l'occurrence, vous acceptez qu'il sera forcément discriminé parce que c'est un choix que vous faites. C'est exactement...
Oui, mais si les parents ne pensent pas à ça, c'est pas de la faute de l'enfant, je suis désolé.
L'enfant peut changer de prénom dans ces cas-là.
Oui, mais il faut qu'il attende la majorité.
Il faut qu'il attende la majorité.
Écoutez, moi j'ai des amis.
Oui, il suffit qu'ils attendent d'être majoritaires.
Voilà. J'ai des amis.
Tu verras qu'il va être discriminé.
C'est ce que disait De Gaulle en 59, sa fameuse tirade.
Colombelle et deux
églises. Exactement. Exactement. Sinon, ce sera
Colombelle. Non, il avait dit d'autres choses aussi.
Il y avait d'autres choses aussi.
Non, mais il y aura, à mon avis, si on continue.
La communauté asiatique, je le vois dans mon entourage. Des amis là, qui ont une petite fille, ils ne l'ont pas appelée avec un prénom qu'on ne comprend pas, ils l'ont appelée Chloé.
Ben oui, parce qu'ils s'assimilent.
Elle est complètement assimilée.
Mais parce qu'ils s'assimilent. Mais ces gens-là, en l'occurrence les populations arabo-musulmanes en France, n'ont pas la volonté de s'assimiler. Ils n'ont pas la volonté de s'assimiler.
C'est-à-dire que c'est sûr que tu as un enfant et que tu l'appelles Djihad, donc déjà tu affiches le programme.
Mais pourquoi ils n'ont pas la volonté?
Mais c'est vrai.
Mais c'est pire que ça.
Oussama à toutes les sauces.
Mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que non seulement ils ne veulent pas s'assimiler, mais en plus ils sont élevés.
Oui, mais pour assimiler, il faut derrière un État. L'assimilation ne peut se faire
on est tout à fait d'accord.
Quand d'une forme d'autocratie.
Mais ça, on ne peut pas
se faire dans une république libérale, etc.
Non, mais d'accord, mais là, c'est pas seulement qu'ils ne s'assimilent pas, c'est qu'en plus, ils sont élevés et qu'ils baignent dans une haine de ce que nous sommes.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils détestent.
Certains, pas tous.
Pas tous.
Mais il y en a, ouais.
Non, mais attends. Il y a quand même une proportion croissante aujourd'hui de population issue de l'immigration. Et ce qui étonnant, c'est que
croissant, c'est bien.
Voilà. tu as vu. Non, mais il y a une population en effet croissante aujourd'hui de musulmans qui aujourd'hui non seulement ne sont plus dans cette volonté d'assimilation, qui sont dans une logique d'affrontement, de conquête de territoires civilisationnels, etc. Et ça, malheureusement, on le voit chez des gens qui sont là, pourtant, qui sont nés en France, mais qui n'ont pas du tout la volonté de vivre en communauté, de vivre dans la société européenne. Occidentale, pour faire plaisir à Nicolas.
Si c'est empire d'Occident,
empire d'Occident.
La catholicité, ça me va
bon,
mieux.
Bon, alors ça va.
Mais
voilà.
Inclure les États-Unis, non. Moi,
j'ai mais t'as un tatouage d'un signe royal, et là, il est. Voilà, il nous.
Non mais, alors, non, mais quoi et quoi non mais
voilà donc peur, mais... voilà donc quand même tu revendiques aussi un héritage chrétien
mais alors la fleur de lys c'est un héritage chrétien c'est vrai c'est aussi notre histoire c'est l'histoire de l'Europe il y a beaucoup de pays d'Europe qui ont eu la fleur de lys sur leur drapeau pas seulement la France c'est vrai mais c'est quand même un symbole français donc moi je suis passionné d'histoire donc en effet c'est pour ça que j'ai fait ce tatouage que j'adore l'histoire de l'Europe
la loi salique
exactement non mais je suis passionné on a une histoire quand même en Europe qui est extraordinaire. Et c'est justement ça le problème avec ces populations, pour faire le lien, c'est que ce sont des gens qui nous détestent pour cela, qui nous détestent pour ce que nous sommes, pour l'histoire que nous avons, pour les valeurs qu'on représente.
Brièvement, de ce que je vois en termes de... Là, je reviens sur le thème du livre, c'est-à-dire surnaturel, ou miracle, entre guillemets, mais vraiment public, etc., dans le monde chrétien, les miracles sont infiniment, mille fois plus nombreux que dans le reste du monde. Voilà. Et je rappelle que même s'ils ne veulent pas s'assimiler, que certains musulmans ne veulent pas s'assimiler, moi je rappelle qu'à leur montre, c'est l'heure. Ils sont au calendrier du Christ. Oui. Hein, donc ils ont perdu la partie. Voilà. C'est le temps du Christ et ce n'est pas le temps de Mahomet. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas le temps du Messie, des Juifs avec leur calendrier à eux. C'est le monde entier est sur le calendrier du Christ. Voilà. Ouais. Et c'est le Christ qui est aujourd'hui le maître des horloges. Soi-disant Macron était le maître des horloges.
Merci à vous. On va passer à l'actu, mais avant ça, les petites annonces.
La tête de la Commission européenne, qui est le poste le plus stratégique.
On fait des salles archi-combles, dont d'ailleurs les médias ne parlent pas, c'est assez curieux. J'ai fait des vidéos qui ont dépassé le million de vues.
pour son
si nombreux. Voilà, c'est l'annonce pour François Asselineau qui sera le 23 avril. Il sera là le 23 avril à 18h30 ici sur ce plateau. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Voilà, vous cliquez sur le lien sous la description. Alors, on va parler actualité. Quel est le premier top tweet? Pourquoi Brigitte Macron? Parce qu'on apprend aujourd'hui, je veux dire, c'est pas une blague, hein. Oui. On apprend aujourd'hui que la Gaumont va préparer une série sur Brigitte Macron.
Mais attends, c'est pas tout, elle va passer dans Emily in Paris aussi.
Aussi.
On a appris qu'elle était officiellement en guest star dans la saison 4 d'Emily in Paris. Donc
c'est magnifique.
C'est une série sur
Netflix. C'est une très jolie série faite par des Américains, c'est très sympa.
Non, mais c'est sympathique.
C'est la France, c'est le Paris idéalisé des années 50.
Ah oui, là il n'y a pas d'immigration dans Emily in Paris.
Là, il y a zéro immigration.
En fait, Emily in Paris, c'est le Paris.
C'est le Paris propre. Tu vois, c'est sans les travaux d'Hidalgo.
Voilà, c'est le Paris sans Hidalgo.
Voilà, c'est le pari qui n'existe plus, en fait. Voilà. Donc, mais c'est très mignon.
Une série sur Brigitte Macron, qu'est-ce que t'en penses? T'as envie de la voir?
Si on parle de Jean-Michel, oui. Forcément.
Ça, en fait.
Mais attends. S'il y a une série sur Brigitte Macron, c'est qu'elle l'a demandé pour contrer cette histoire de Natacha Ray et de, comment elle s'appelle, Amandine Roy. Voilà.
Amandine Roy et Xavier Poussard.
Qui ont lancé tout ça, et que Xavier Poussard a vraiment amplifié dans le monde entier, littéralement, avec ses comparaisons de logiciels de reconnaissance faciale chinoise qui sont absolument radicales. Vous savez, moi, j'étais au Japon, et vous savez, quand vous êtes entouré de milliers de personnes, et elles ont toutes les cheveux noirs, elles ont toutes le même visage. Enfin, pour nous, occidentaux, ça paraît... nous, on est habitués à toutes sortes de couleurs de cheveux et des visages vraiment, vraiment différents. Alors, quand un logiciel de reconnaissance chinois est capable de faire la différence sur des Chinois, bon, on se dit, c'est le truc qui doit être quand même... Ça doit être quand même
sérieux.
Oui, c'est
au point. Hein,
voilà, ça doit être au point, quelque part, quand même. Voilà. Donc, elle a besoin de répondre à ça, au scandale. Non, mais pourquoi elle ne montre pas les photos, tout simplement? Je veux dire, de toute façon, à l'Élysée, ils sont nuls. Ils ont tellement mal géré cette affaire. Ils devraient tous être virés.
Virés, allez, dehors. Tiens, Jean-Nicolas, qu'est-ce que t'en penses?
J'ai vu que les créateurs...
Une série, là, sur Brigitte. T'as envie de la voir, tiens, sur Netflix.
Pour moi, c'est malheureusement, je dirais pas que c'est un non-sujet, mais disons qu'on voit que cette affaire-là nous donne la risée mondiale. Et que finalement l'image de la France est encore écornée. On parlait tout à l'heure de médiocrité, etc.
Même c'est mort.
D'assimilation, etc. Comment voulez-vous que les gens, que les immigrés aient envie de participer à l'héritage français avec toute cette médiocratie, toute cette décadence, cette déchéance même? On parle d'une fin d'ère. Alors justement, j'ai lu que les créateurs, ils avaient déjà écrit, alors je sais pas si c'est un film, mais qui s'appelle Mirage et J'ai menti. Donc déjà, on voit un petit peu ce qui se passe.
Le j'ai menti, c'est quoi? C'est le regarder l'avenir avec les pierres, non? C'est
ça? Peut-être, je sais
pas. Il y a pas un truc.
Géomancie.
Ah non, c'est géomancie. Ouais.
Donc voilà, mais j'espère qu'on parlera de ce qui fâche. Mais bon, voilà, je pense que ça va attirer pour le sujet, mais après, ça va pas donner.
Si c'est une série sur l'affaire Trogneux.
Bah non, évidemment que non.
Tout le monde va regarder. Parce que Brigitte Macron, elle a fait quoi? Elle était prof, machin, elle a couché...
Peut-être qu'ils parleront des 30 ans de trous de Madame Macron.
Non, mais elle veut réparer son image. C'est ça qu'elle veut. Voilà, c'est tout. Ça, c'est une commande.
C'est sûr, c'est une commande?
En tout cas, ça ressemble vraiment à une grosse commande. Parce que à part... qui s'intéresse à Brigitte Macron s'il n'y avait pas l'affaire Jean-Michel Trogneux?
Voilà. Ça, c'est vrai.
Personne.
Jérémy, tu regarderais toi une série comme ça avec Brigitte Macron?
Absolument pas, ça ne m'intéresse pas. Non, non, c'est pas très intéressant.
Est-ce qu'il y a une série sur Bernadette Chirac?
Voilà, c'est pas très intéressant.
Un film.
Et puis je trouve que voilà, le fait de se mettre en scène comme ça de la part de la femme du président quand on connaît la situation du pays qui est dans une cocotte minute, etc., je trouve ça extrêmement déplacé. C'est déplacé pour le peuple français.
En plus, c'est les personnes.
C'est indécent. Mais oui, en plus, on n'a pas cette vision en France de la First Lady à l'américaine. C'est pas un personnage politique en France, la femme du président de la République. Et je trouve trouve que dans la situation actuelle du pays qui est en train d'imploser, se faire comme ça des commandes de documentaires, de films, ça me fait penser au documentaire d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine où il s'était filmé, vous savez, pendant 6 mois et qu'après il avait dévoilé les conversations téléphoniques avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'en fait, on croit que Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont dans un film. Ils font une rétrospective de leur propre vie.
La génération image.
En fait, je pense que Macron se voit réellement comme à la tête d'une série Netflix à l'Élysée. Et donc, voilà, c'est je me mets en scène en parlant à Poutine, je fais ça sur Brigitte Macron, je fais des. Mais c'est ridicule parce qu'en fait, le pays est en train de sombrer et les Français voient ça d'un très mauvais œil.
Nicolas. T'es d'accord avec ça, Nicolas ?
Moi, je dirais que même la Corée du Nord, même Kim Jong-il avec sa sœur incestueuse, n'aurait pas osé faire une série là-dessus. C'est-à-dire qu'on est vraiment les. C'est incroyable. Je crois que Kim Jong-il voit ça, il doit aller voir ses journalistes.
Au courant, hein, sa sœur incestueuse.
Moi, pour moi, il est toujours.
On veut tout savoir.
Toujours avec sa sœur. Alors c'est quand même assez étrange.
C'est mieux que l'affaire Coupe. C'est mieux que l'affaire Jean-Michel Trogneux.
Non, mais il est toujours avec sa sœur. C'est assez étonnant. C'est folklorique, c'est exotique. Mais nous aussi, on devient très exotique.
Adjenaton couchait bien avec sa mère.
Voilà, tout est possible. Et bon, on ne dira pas les dernières rumeurs de
ça. Avec sa sœur. Okay,
moi, en tout cas, j'ai juste. On vous parliez de la mère Chirac, mais enfin, avant, tante Yvonne, l'épouse du général de Gaulle. Quand on pense, et là, c'est d'une quelle indécence cette Brigitte Macron avec Vuitton, avec Arnaud, avec tout ça, alors que tante Yvonne, rappelons-nous, lorsque de Gaulle a cassé sa pipe, il n'était rien prévu pour la veuve d'un chef d'État. Il a fallu qu'en catastrophe, Pompidou fasse voter une loi par le Parlement permettant le reversement de la pension du président de la République à son épouse légitime. Ouais, ouais. Sinon, ils n'auraient même pas pu garder le micro-château de Colombelle et deux églises.
C'est vrai que tu avais un poster de tante Yvonne comme petit ?
Non, mais du général, oui. Et donc, quand je vois toute cette indécence aujourd'hui par rapport au président fondateur de la Ve République, mais vraiment, ça me dégoûte.
Alors, je voudrais juste ajouter, puisqu'on est dans Émilie Paris, c'est Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld était un immense couturier avec un talent phénoménal, il était chez Chanel, mais il a travaillé avec les plus belles femmes du monde.
Oui. Hein, c'est comme Brigitte.
Ah, voilà.
Et si belle femme que
il a travaillé avec les plus beaux mannequins du monde. Et qu'a-t-il dit à propos de Brigitte
Macron ?
Les
plus belles jambes de Paris.
Ah, il a dit quelque chose ?
Alors que quand on le regarde, c'est les jambes les plus moches de Paris.
Oui, ça, c'est vrai.
Bon, il nous a quand même indiqué quelque chose, mine de rien, avec ce commentaire.
C'est pas faux.
Voilà.
C'était ironique, j'imagine.
Ouais. Oui, total.
En tout cas, merci à vous.
Oui, j'arrive à décrypter des choses.
Oui, tu décryptes bien. Merci à vous pour cet excellent débat. Cher Pierre, tiens, ton actualité, hormis bien sûr le 888.
Bien écoutez, je serai à Erani samedi.
C'est affiché. Voilà. Erani, samedi 30 avril.
Voilà.
Dans le grand cercle d'Erani, c'est où ça ?
C'est à côté de chez moi.
Ah bon ?
Tout juste.
Ah
oui.
Tu viens ?
Oui.
Tu viens ? C'est au grand cercle de voilà jusqu'à 18h.
Le calendrier.
14-18.
Où vous pouvez voir Pierre Jovanovic en dédicace.
Voilà, donc ça c'est le calendrier jusqu'à Colmar au mois de décembre. Donc je remercie tous ceux qui sont venus à La Roche-sur-Foron. Hein, il y a eu quasiment 300 personnes. Donc,
300 personnes, où ça ?
La Roche-sur-Foron.
C'est où ça ?
Dans les Alpes, en Savoie.
300 personnes, absolument. Ah ben, c'est pas mal quand même. Là,
mais c'est gentil, vraiment je les remercie du fond du cœur. Et d'ailleurs je m'excuse auprès de beaucoup de nos lecteurs qui ont commandé des livres, parce que notre diffuseur Albin Michel, il a une panne informatique colossale, et ça, les libraires sont livrés avec un jour de retard. Voilà, donc ceci explique cela.
Mais ça arrivera.
Oui, ça arrive. Ça arrive, que tout le monde se rassure. Voilà.
Merci beaucoup,
Merci à vous, Mike.
C'est un grand plaisir. Alors, Nicolas Bouvier, qui reçoit du monde aussi, là, cette semaine.
Demain soir, je reçois Martial Bildt, confrère de TVL. Et jeudi, je fais une première table ronde, parce que je vais en faire trois, sur la protection de l'enfance, où je vais recevoir notamment Marion Sigaud, Gladys Riffard, Arnaud Gallet et d'autres. sur justement, on va parler d'inceste, de désenfantement, de tout ce qui concerne l'enfance. Donc là, ouais, je sais, c'est pas
ça donne envie, toi.
Ouais, ouais, non, mais ça va être un gros débat. Et puis ensuite, je vais recevoir notamment mardi prochain Piero San Giorgio aussi. Et voilà, donc d'autres invités à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner.
Merci à toi, Nicolas Bouvier, YouTube. Merci beaucoup. Cher Jérémy Marquis, président de France et vous, on peut voir aussi sur TikTok, 260 000 abonnés. Demain à Bistrot Liberté.
Demain à Bistrot Liberté. Voilà, et je suis aussi sur Instagram. Et sur...
Demain à 21h.
21h, ouais.
Voilà, Bistrot Liberté, grand débat, j'imagine.
Oui, 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 oui. Oui.
Il y aura qui à Bistrot ?
Il y aura Alice Cordier, il y aura la journaliste qui a fait l'enquête de Livre Noir, justement, qui s'est infiltrée dans les collectifs d'extrême-gauche. Voilà, très intéressant, donc ça va être une très bonne émission. Voilà.
Bon, bah, on te retrouve demain à 21h
demain
sur
à 21h,
TVL.
Voilà, et sinon, sur les réseaux sociaux.
Et TikTok.
Oui, Instagram.
Et Instagram aussi ?
Oui, oui, Instagram et X, ouais, ouais.
Merci beaucoup, cher Jérémy. Et enfin, Nicolas Stocker, éditorialiste, qu'on retrouvera samedi de 9h à 10h30 sur Radio Courtoisie pour l'émission de Libre Journal de Géopolitique Profonde. Il y aura qui sera présent ce samedi ?
Pierre-Antoine Plaquevent, que je crois que tu as la veille, dans GPTV. Et sinon, vendredi, Florilège des Arts, c'est ton émission préférée. Ton émission préférée.
Avec qui ?
Eh bien,
Monsieur le tailleur.
Eh ben bravo, t'as trouvé.
Ah, bah, c'est pour changer
et
le tailleur.
Et pour parler de...
Je ne sais pas, de Montmartre ?
Non. Oui, mais... Mais encore.
Je ne sais pas.
Aznavour. Ah. Mais oui, il y a un anniversaire d'Aznavour. Ils vont mettre d'ailleurs une magnifique plaque là où, à côté, au niveau de la bonne franquette. Ouais, je ne sais pas si je pousserai la chansonnette, mais on passera quelques musiques, évidemment.
Ben, merci à toi, cher Nicolas. Merci à vous. Vous avez été très nombreux, 8000 personnes en même temps. Merci à vous. Continuez à partager, à faire vivre cette émission et donc cette chaîne. Passez une excellente soirée. Et nous, on se retrouve jeudi soir à 18h30 avec Jacques Cheminade. Allez, bonne soirée et à jeudi. Salut, ciao.
Très bon invité.
Vous aimez Géopolitique Profonde ?
Yeah.
Nous aussi, on vous aime bien. Vous aimeriez peut-être nous le dire, mais vous n'avez pas toujours les mots ? Alors exprimez-vous en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche. Cela ne semble rien, mais en réalité, cet engagement de votre part nous aide énormément dans notre travail. De plus, c'est simple, gratuit, et cela ne coûte aucun effort. Alors cliquez donc sur ce bouton.